réalisation de cette émission. Et nous allons retrouver Jean-Pierre Petit pour, courageusement, vaillamment, une partie de la nuit. S'il est en ligne, bonsoir Jean-Pierre Petit.
Bonsoir.
De nouvelles lettres ouvertes ont été publiées sur le site jp-petit.com. Ont-elles donné des résultats de votre côté?
Ben, disons, on se pose des questions. Moi, j'ai fait, alors, point de vue de la manifestation des destinataires, néant, complètement néant.
Voilà, de mon côté aussi, j'ai appelé tout le monde. Tous ceux qui étaient destinataires de l'un de ces courriers, personne ne répond. L'un n'ayant pas d'avis à donner, l'autre étant trop pris, le troisième étant en déplacement, le quatrième n'est pas joignable. Quant à la présidence de la République, le major L nous dit qu'elle a le courrier entre les mains, mais n'arrive pas à le communiquer à Monsieur P, commissaire de la Marine, chargé de donner une réponse. Donc toutes ces personnes ont des raisons diverses pour ne pas répondre à ces lettres ouvertes.
Mmh. Bah, moi, ça m'étonne pas, quoi. Enfin, c'était une chose qu'il fallait faire, hein, parce que on en parlera ce soir. Hein, je crois qu'il y avait le public devait être informé de certaines choses, et ces lettres ouvertes, c'est une façon de les informer, quoi. Et je pense de toute manière que. Je ne sais pas si on peut appeler ça les pouvoirs publics, mais enfin les institutions, tout ce qui s'est préoccupé d'OVNI actuellement, ce sont des groupements qui pensent n'avoir strictement aucun compte à rendre à personne, c'est tout. Hein. Donc de temps en temps, ils se manifestent dans les médias ou dans les journaux. Et puis, je crois que si les gens écrivent, ben, ils n'ont pas de réponse. C'est valable pour moi comme c'est valable pour n'importe qui.
Alors par contre, les auditeurs peuvent se rendre sur le site jp-petit.com, peuvent consulter ces lettres, et s'ils s'associent à ce courant, ou à ce mouvement, si l'on peut dire, eh bien, qu'à cela tienne, ils peuvent inscrire leur nom sur une liste qui s'allonge tranquillement, n'est-ce pas?
Oui, oui. C'est vrai que lorsque j'avais sorti mon premier bouquin qui s'appelait Enquête sur les ovnis, c'était en 87, avec Madame Brichambeau, on s'était posé la question de savoir si on pourrait trouver un écho auprès du public, parce que bon, ça m'a amené, moi, à parler de pas mal de choses ce soir, à parler en particulier un petit peu de l'histoire de l'ovni en France.
Hein. Ah oui, je n'ai pas dit encore que nous avons titré la saga ufologique en France.
Oui, la saga ufologique. Disons que j'ai mis pas mal de choses sur mon site. Il y a déjà, j'ai vu que les consultations s'étaient pas mal envolées. Il y a eu des pointes à 1800 consultations par jour. Comme j'ai des compteurs sur pas mal de pages, ça permet de savoir que les gens vont vraiment voir ça. Et à un moment, j'ai estimé qu'il fallait faire un certain boulot pour installer des fichiers qui expliquent un petit peu la saga OVNI en France. Donc effectivement, on peut peut-être un peu commencer par ça.
Mmh,
alors, je voulais aussi dire une chose, parce que ça, il faut le dire d'entrée de jeu, c'est que mes propos dérangent beaucoup de gens. Hein. Et les gens qui s'estiment dérangés ont une façon de réagir qui leur est très personnelle, qui est le procès en diffamation. Alors le procès en diffamation, c'est pas forcément quelque chose de justifié, mais il faut savoir que dès que quelqu'un est cité, il peut très bien dire « moi je m'estime diffamé », même s'il n'est pas diffamé, et à ce moment-là, moi, ça représente 20 000 balles d'avocat, à tous les coups. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un lance une procédure comme ça, ben, c'est très commode, parce que en face, il faut répondre, et même si il y a une sorte de non-lieu, même il y a des frais de justice considérables, qui fait qu'effectivement, je pense qu'à un moment, il faudra qu'on ait une espèce de structure associative pour essayer de prendre en charge ce genre de choses-là.
Ben justement, depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, et suite également à une sorte de mouvement d'humeur sur votre site, genre ça fait assez longtemps qu'on se moque de nous, qu'on nous promène, qu'on nous balade, le mouvement Don Quichotte a pris naissance.
Ah, disons que c'est vrai qu'il y a un lecteur qui m'a dit « mais est-ce que ce que vous faites, ça ressemble pas un petit peu à une démarche de Don Quichotte contre les moulins à vent ?» Et c'est vrai que, disons que dans le livre de Cervantes, les moulins à vent, c'est quelque chose qui est très bien choisi. C'est une image, parce qu'un moulin à vent, ben, ça brasse du vent. Quoi. Ce sont des gens qui parlent. C'est pas très efficace, un moulin à vent. Et le pauvre Don Quichotte charge contre ces moulins à vent comme un malheureux, et il s'épuise. Et c'est une histoire assez triste. Quoi. Il finit par mourir, d'ailleurs. Et c'est vrai que, bon, continuer comme ça éternellement, ça fait un peu 25 ans que ça dure. J'ai un livre qui va sortir donc le 3 janvier. Après 7 ans de silence, d'ailleurs, hein, après avoir quitté les plateaux des médias en 95, quoi. Bon, donc, je n'ai pas vécu accroché aux manifestations médiatiques en permanence. En fait, pourquoi est-ce que j'ai quitté les médias en 95? Parce que c'était prodigieusement assommant, quoi. Je veux dire, j'en avais particulièrement marre d'être sur des plateaux où il n'y avait personne, quoi. Bon. Et puis, une fois les années ont passé, j'ai appris, j'ai eu des informations, il y a des choses qui sont sorties, des choses qui sont venues, et il fallait quand même les communiquer au public. Donc, le bouquin est une sorte de rattrapage de jeu, et va mettre des informations dont on a déjà parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes, qui devraient quand même interpeller pas mal des gens. Et puis, une fois que j'aurai fait sorti ce livre, je ne sais pas du tout s'il y aura un sujet médiatique. Si je suis invité dans des médias quelconques, ben je m'y rendrai. Mais ce n'est pas évident, parce que récemment, il y a une émission qui a eu lieu, et il y avait deux types qui avaient été invités, et on a beaucoup parlé de moi, et il a fallu que les auditeurs téléphonent en disant, bah, écoutez, vous parlez de Jean-Pierre Petit, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas invité?
Ça se fait chez quelqu'un.
Dans ces émissions-là, les gens ont des tas de choses à dire sur moi, et moi je ne suis pas présent, donc je ne peux pas répondre. Alors je ne sais pas du tout si en janvier ça va se passer comme ça. Quand je suis sur un plateau, je n'ai pas systématiquement la langue dans ma poche, donc ma foi, s'il y a des gens qui parlent, je pourrais leur répondre.
C'est ce qui dérange. Jean-Pierre Petit, avant d'aller plus loin, suite à cette impulsion donc, que vous avez donnée, cette inspiration, l'esprit Don Quichotte contre les moulins à vent, mais aussi le mur du silence, des internautes se sont groupés, et nous avons l'un d'entre eux au téléphone, sur l'autre ligne. Ça serait bien qu'en votre présence, justement, ils définissent ce qui a motivé lui et ces inconnus, ces centaines d'inconnus potentiels qui peuvent ensemble faire quelque chose.
Oui, oui.
Il se prénomme Emmanuel, il s'appelle Emmanuel J.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Alors un peu de promo pour ce mouvement Don Quichotte, donquichotte.org qui prend naissance.
Oui, c'est ça. Et ben en fait, on en est à la phase de projet d'association. Parce qu'en fait, l'outil idéal aujourd'hui pour se grouper en tant que citoyen avec un objectif déterminé, c'est l'association. Et c'est vrai que grâce à l'appel que Jean-Pierre Petit a lancé sur son site, ça a permis en fait à tout un tas de personnes qui s'interrogeaient sur le phénomène OVNI et sur la façon dont les médias en traitent, qui s'interrogeaient en se disant que vraiment, on nous cachait quelque chose, hein, sans être totalement dans une théorie de la conspiration ou du complot, mais il y a quand même un peu de ça. Et en fait, donc ces gens commencent petit à petit à s'agréger, à former quelque chose qui pourrait être le point de départ d'un mouvement.
Petit à petit, j'ai noté.
Donc en fait,
ne te laisse pas déstabiliser, Emmanuel.
Pardon.
Ne te laisse pas déstabiliser.
Non, non, non. Mais en fait, on a des outils aujourd'hui pour avancer. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies. Donc ces outils, c'est une liste de discussions et de diffusions sur Yahoo Group et un forum. Donc en fait, c'est des espaces qui permettent différentes choses. Sur le forum, c'est beaucoup plus pratique pour discuter, pour laisser des idées se développer, mûrir, etc., avec des gens qui reviennent sur les propositions, qui rediscutent tel ou tel point. Et donc, tout est archivé, bien sûr, ça permet de suivre ce qui se passe. Le forum est organisé en différentes thématiques, hein, qui permettent de ne pas se perdre, les aspects purement associatifs, comment on va s'organiser, les idées, etc. Les aspects recherche, parce qu'il y a une dimension aussi de recherche scientifique et d'analyse scientifique. Les aspects de communication auprès des médias aussi, enfin, différents groupes. Et sur la liste, c'est un petit peu pareil, on commence à s'organiser en différents groupes, et par contre, là, ça permet un suivi plus au jour le jour, au quotidien, plus technique, Donc voilà, c'est Michael Vaillant qui est le modérateur de la liste, hein, parce qu'il faut quelqu'un quand même qui soit là pour trier l'information, pour pas laisser passer n'importe quoi. Sur le forum, c'est pareil, il y a deux modérateurs, Fred et Julien Marie.
Très bien. Emmanuel Joss, il y a plusieurs façons de participer à une liste. Soit on accepte de recevoir dans sa boîte aux lettres, dans sa messagerie, les messages à mesure qu'ils tombent, soit de les recevoir groupés par paquet, une fois par jour seulement, par exemple, pour éviter l'encombrement de la boîte aux lettres.
Ouais, on peut. Alors, ceux qui sont équipés chez eux, le logiciel, peuvent filtrer leur courrier pour que ça arrive directement dans une boîte qu'ils auront dédiée. Il y a un message d'ailleurs sur la liste qui explique comment faire la manip, mais on peut aussi consulter la liste comme un web normal en fait, donc depuis aussi un cybercafé par exemple, et donc consulter les archives, les envoyer ces messages depuis l'interface du navigateur, donc depuis le web directement. Donc ça permet d'y aller à son rythme et puis selon les moyens qu'on a à sa disposition.
Alors, est-ce qu'il faut être invité par un membre pour rentrer, ou est-ce qu'on peut aller directement sur yahoo.fr?
Alors, on peut aller sur le Yahoo Group, on trouvera l'adresse de Don Quichotte facilement.
Don-Quichotte.
Alors, c'est Don souligné Quichotte, hein. Et là, on peut aussi donc demander à se faire inscrire.
Donc, on postule.
On postule, hein, donc pas de problème, hein, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde. Après, il y a le respect que tout le monde commence à intégrer, je pense, maintenant, avec cette fameuse étiquette, c'est-à-dire rester convivial, essayer de pas sortir des objectifs de la liste, qui est quand même de préparer la mise en place de l'association, de ses objectifs, de ses moyens.
Alors ça a été lancé le 22 novembre.
C'est ça, le 22 novembre.
Tout récent.
C'est tout récent. Pour l'instant, il y a 70 membres sur la liste. Et dans le forum, il y en a à peu près autant, je crois. Alors peut-être que des fois, ça s'entrecroise. Il y a des gens qui sont un peu sur les deux. D'ailleurs, c'est bien d'être sur les deux, hein. Moi, je le conseille fortement. Mm-hmm. Donc, je pense que là, pour l'instant, de gens potentiellement actifs déjà sur le réseau, il y a une bonne centaine de gens regroupés, entre 200 à 150 personnes, quoi.
Bon, alors je suppose que Jean-Pierre Petit n'a pas eu l'occasion de se manifester sur cette liste jusqu'à présent. Peut-on profiter de sa présence à l'antenne, votre présence à tous les deux, pour lui demander, bien qu'il ne souhaite pas s'impliquer, c'est ce qu'il m'avait dit en privé, il regarde avec bienveillance la chose se développer, est-ce que Jean-Pierre Petit peut nous dire quelle est la direction qu'il souhaite donner, l'impulsion de départ?
Disons que moi j'ai trouvé que quand j'ai positionné ces lettres ouvertes, j'ai eu des messages de soutien. Et surtout, j'ai trouvé là-dedans une attitude de citoyen. C'est exactement le mot qui convient, quoi. Ces gens sont des citoyens et ils trouvent que ces problèmes les regardent. En lisant mes lettres et mes textes, ils ont l'impression qu'on leur cache des choses, et ça c'est évident. Ils ont l'impression qu'on les mène en bateau, et ça c'est évident aussi. Donc le citoyen français, ben, il n'a pas tellement envie qu'on le désinforme, qu'on le mène en bateau. Et c'est certain qu'un citoyen isolé, ben, c'est un Don Quichotte, c'est rien du tout, quoi. C'est pas la peine de protester. La protestation ne commence à être efficace que si les gens se regroupent. Alors, comme je disais, que s'il y a quelques centaines de personnes, c'est un groupe de pétitionnaires. S'il y en a quelques milliers, c'est une manifestation. S'il y en a quelques dizaines de milliers, c'est un courant d'opinion. Et tout dépendra du volume des gens, et tout dépendra de leur façon de s'organiser. Et moi, volontairement, j'ai pas du tout voulu me poser en leader dans cette histoire-là, parce que je pense que c'est aux gens eux-mêmes de se manifester. J'ai publié des tas de bouquins, j'ai dit des tas de choses. Alors, évidemment, il y a des gens, je veux dire que, en étant un peu sarcastique, je dirais qu'en France, les gens disent, c'est un scandale, on ne fait rien, puis ils vont s'asseoir devant la télévision, quoi. Ils ne font rien. Et c'est sûr que cet appel, ce que je dis là ce soir, c'est, ça vous regarde, c'est à vous de faire. C'est à vous de vous manifester. Vous en avez l'occasion. Et justement, Internet est un outil tout neuf. C'est pour ça que les gens ne savent pas encore très bien comment ça fonctionne, comment... Et ils ont un pouvoir phénoménal. Par exemple, prenez l'exemple d'une pétition. Un type fait une lettre et puis il recueille des signatures. Bon, voilà, on recueille des signatures. Déjà, il faut des gens qui collectent, qui aillent se trouver les uns les autres. Et puis après, il faut rassembler toutes ces signatures. Puis ça se termine par quoi? Ça se termine par une journée où il y a un, deux ou quatre gaziers qui vont dans un ministère, qui demandent à rencontrer le sous-fifre à qui on remet ostensiblement la pétition. Puis si on a de la chance, et ben, on a un petit journal régional qui fait une photo et puis il y a un cliché. Et l'association pour la défense de ceci ou de cela a remis la pétition. Et plouf, après ça disparaît. Alors, l'intérêt d'Internet, c'est que c'est comme les gouttes d'eau, quoi. Et moi, il y a une chose que j'ai trouvé merveilleuse dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une dame, ou une jeune fille, je ne sais plus, dont j'ai oublié le nom, mais elle est mentionnée sur le site, qui m'a écrit en disant, vous savez, je suis une petite personne très insignifiante, je suis une simple inconnue. Et elle a eu cette phrase, elle a dit, mais s'il n'y avait pas de gouttes d'eau, il n'y aurait pas de rivière, quoi. Hein, sans les gouttes d'eau, que seraient les rivières? Et c'est vrai qu'une rivière, c'est fait avec des gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau, ben, ce sont les signatures, ce sont les contributions individuelles. Et chez nous, ça s'appelle les bulletins de vote, quoi. Et c'est en surfant sur cette espèce de masse de bulletins de vote que des gens arrivent très souvent à nous prendre pour des couillons, quoi. Mais là, bon, bah, ben, dans un truc comme Internet, ces signatures tombent. Bon, c'est lent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est ce que pour rappeler aujourd'hui à quelqu'un, c'est qu'un mouvement comme ATTAC qui finit par avoir une certaine efficacité, mais ça a démarré par une douzaine de personnes autour d'une table, quoi. Donc il ne faut pas croire que les choses démarrent comme ça aussi rapidement. Il y a eu des... Moi je n'ai pris là-dedans aucune initiative, hein. Je veux dire qu'il y a un gars qui a dit tiens, ben, je vais faire un forum, et il a fait un forum. Bon. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est un forum où il était question d'OVNI, eh bien... il a immédiatement ramassé dans les jours qui ont suivi tous les gens qui avaient envie de papoter, quoi. Par exemple, pour savoir si les ovnis venaient vraiment de la planète Zeta, si les extraterrestres avaient 6 doigts de pied ou des choses comme ça. Il y a des tas de gens qui sont prêts à parler pendant des semaines là-dessus. Bon. Alors là, la question n'était pas la bonne. La bonne, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et puis comment ça peut s'organiser, des choses comme ça. Donc très vite, les gestionnaires du forum a dit bon, ben on va faire différentes pièces, un peu comme des gens qui se réunissent, il y en a qui jacassent et puis il y en a qui essayent de faire quelque chose. Alors ceux qui ont envie de parler de choses et d'autres, on les met dans un sous-forum où ils vont discuter, puis après ben, les autres essayent de s'organiser. Alors, dans cette histoire-là, bon, ben, il y a des choses qui émergent. Il y a quelqu'un qui pourrait être un bon secrétaire, il y a quelqu'un qui pourrait être un bon trésorier. Un bon trésorier, c'est intéressant parce que c'est un type honnête. Alors, tout le monde a été d'accord pour une chose, déjà, c'est que s'il y a une association qui se crée, bon, ben, une association, c'est quelque chose qui va avoir des actions, par exemple des actions juridiques. Et puis, éventuellement, des actions juridiques, les avocats se payent pour demander ceci ou faire cela, quoi. Mais, pour être original, cette association, si elle se monte, elle aura une comptabilité transparente en temps réel. C'est-à-dire, imaginez une page web, et puis vous avez l'association Opération Audrey Quichotte, et puis vous avez une case avec comptabilité, et quand vous cliquez comptabilité, vous allez tout de suite l'avoir en banque, combien il y a de membres, combien il y a eu
de ramène de papier.
Et puis il y a même, carrément, la comptabilité au jour le jour, du genre, tel jour, on s'était acheté 5 grammes de papier, 3 stylos, etc. Carrément, parce que Internet permet un truc aussi volumineux, c'est-à-dire que si les gens disent nous voudrions faire une inspection détaillée de la comptabilité de l'association, mais il n'y a pas de problème, elle y est déjà. Vous n'avez qu'à l'imprimer, ça vous fera tant de pages, et vous avez tous les renseignements, et rien ne sera oublié. Et vous ne trouverez pas là-dedans un déjeuner dans un 5 étoiles, comme certaines associations s'offrent le luxe de le faire.
Au frais du contribuable, parfois.
Exactement, au frais du contribuable. Donc, c'est vrai que quand on est sollicité pour ci, on est sollicité pour ça, ben on se dit, si on envoie 100 balles, on a envie de savoir où va le fric. Hein. Bon, ben, là, je pense pas que ce soit une association qui se dotera de permanence, du moins pour le moment, mais ça m'étonnerait. Donc, là-dedans, il y a certainement un bénévolat. Il y a aussi, il y a beaucoup de jeunes, quoi. Il y a un enthousiasme, et puis on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de se manifester. Alors, évidemment, vous disiez tout à l'heure, quel genre de choses peuvent être faites. Il y a des choses extrêmement simples. Par exemple, en 79, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur, ça aussi c'est à vérifier, puis il faudrait aussi des juristes. Là aussi, je fais un appel en disant, s'il y a des juristes qui ont vraiment envie d'aider, qu'ils entrent dans le forum, qu'ils contactent, qu'ils offrent leur service, que nous avons besoin de juristes. Donc, en 1919, il y a un décret qui est tombé, qui a porté à 60 années le temps nécessaire, le temps d'attente nécessaire pour consulter un rapport de gendarmerie concernant un cas d'OVNI. Vous vous rendez compte, il y a un cas d'OVNI, il s'est passé quelque chose dans telle ville, quelqu'un a vu telle chose, etc. Vous adressez la gendarmerie, vous dites j'aimerais consulter ce dossier, on vous répond, ben écoutez, ça date d'il y a 2 ans, revenez dans 58 ans. Carrément.
Parce qu'il est classé.
C'est complètement extraordinaire. Mmh. Alors, il y a donc, dans mon site, vous trouverez la réponse qui a été faite à un ufologue qui s'appelait Sider, qui avait fait une démarche à la fois auprès du ministère de l'Intérieur ou à la fois auprès de la gendarmerie. Il y a les deux lettres qui sont produites. En disant, bon, cher monsieur, nous sommes absolument désolés, il faut attendre 60 ans, et il n'y a pas de dérogation. Alors, c'est quand même quelque chose d'énorme, parce que, c'est quoi ce phénomène OVNI pour qu'il y ait 60 ans d'attente? Alors évidemment, un argument consisterait à dire il faut protéger l'anonymat des témoins. Très bien, mais à ce moment-là, ce décret peut être amendé en disant l'identité des témoins ne sera fournie qu'avec l'assentiment de ceux-ci. Hein. Et quelquefois, il y a des documents que, par exemple, on en trouve aux États-Unis où les gens ont fait des procès parce qu'ils ont une espèce d'acte qui leur donne droit à avoir accès à ceci ou à accès à cela. Mais quand il y a des personnes impliquées, ben, il y a des coups de marqueur. Par exemple, les gens dont les noms sont figurés, ben, on les enlève. Ben, imaginez un rapport de gendarmerie qui corresponde à la communauté de Tartampion, etc., à telle date, et les témoins, ils n'ont pas voulu que leur nom soit indiqué, ben, il y a un coup de marqueur, les témoins sont biffés. Mais ce qui est important, c'est pas le nom du témoin, c'est ce qui est raconté, c'est ce qui est vu, ce qui est constaté. Et ça, tout ça, ça constitue un matériel. Je sais pas, je crois qu'il y a 3000 rapports ou 4000 rapports, et personne ne peut y avoir accès. Alors, c'est là que je trouve ça fantastique, parce que dans la plaquette Cometa dont on aura l'occasion de parler, il y a une préface du professeur Lebeau, qui est l'ancien président du CNES. Et Lebeau titre sa préface « Dégager le sujet OVNI de sa gangue irrationnelle ». Bon, et ça, « Dégager de la gangue irrationnelle », ça signifie que c'est une sorte d'incitation pour que des scientifiques et des intellectuels se penchent sur le sujet. Mais sur quoi peuvent-ils se pencher s'ils doivent attendre 60 ans avant d'avoir documentation? Donc vous voyez, là déjà, il y a une action à faire en demandant l'abrogation de ce décret ou sa modification. Et ça, vous vous rendez compte que ça date de 1919, ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans. Mm-hmm. Ça fait 23 ans que ce décret est en vigueur. Très peu de gens le connaissent. Bon, effectivement, peut-être les gens ne sont pas très curieux, mais s'il y a des gens qui voulaient s'intéresser à ça, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? Réponse, zéro. Et s'ils vont frapper à la gendarmerie, on leur dit, excusez-nous, mais il y a un décret qui interdit ça. Alors là, vous voyez, ce truc, c'est quand même très suspect, parce que il y aurait un décret qui dirait l'identité des gens qui ont témoigné dans un truc OVNI, il faut attendre 60 ans pour la connaître, bon, je comprends. Mais là, c'est pas l'identité, c'est le contenu du rapport. Donc ce rapport, concernant les OVNI, il y a une protection qui a été introduite, et qui a été introduite en 1979, c'est-à-dire 2 ans après la création du GEPAN. Le GEPAN a été créé en 1977, crac, aussitôt, on a fait ce décret qui met complètement sous clé les informations concernant les objets qui sont ramassées par les gendarmes. Ensuite, je ne sais pas comment ça se passe au point de vue décret, mais je crois qu'il y a aussi des décrets qui leur donnent un petit peu l'exclusivité des enquêtes. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a une histoire de ce genre-là, ils sont parfaitement en droit de foutre tout le monde dehors. Ce sera vérifié, il faudrait que les juristes y mettent un petit peu leur nez dedans. Mais là, il y a une espèce de mainmise sur le sujet. Alors évidemment, la raison peut être, s'il y a des traces, il faut empêcher les curieux de tout piétiner, il faut empêcher les pièces de conviction de disparaître, il faut empêcher... D'accord. Mais ces 60 ans d'attente, ça c'est tout à fait suspect. Donc, parmi les buts de l'association, on pourrait dire dès qu'elle se crée, immédiatement, une action en justice, hein, une action administrative, je ne sais pas, c'est au juriste de définir ça. Il y a une action à faire en direction de ce décret. Hein.
Donc faire venir déjà des juristes, les intéressés à cette opération Don Quichotte, faire venir également un peu de matériel dont le trésorier a besoin, le secrétaire aussi sans doute, toute machine recyclable.
Matériel, mais par exemple, on a l'association a un candidat secrétaire qui est Monsieur Rollet, qui est
mais qui n'a pas de PC.
Il est à la retraite, c'est un professeur d'allemand à la retraite qui parle 4-5 langues et qui fera un très très bon secrétaire, qui est un type très intègre, très bien, que je connais. Seulement, il n'a pas de matériel. Et puis,
c'est tout bête. Ouais.
Il n'a pas d'argent pour se l'acheter.
Là, ce que vous venez de dire, ça suggère effectivement plusieurs sous-commissions, par exemple. Une chargée de traquer les décrets qu'on doit s'empresser de faire abroger. Une autre sous-commission peut s'intéresser au développement de la MHD civile, par exemple.
Bah oui, développement de la MHD civile, là, je dirais que qu'est-ce qu'une association comme celle-là peut faire? Là, vous parlez du développement de la MHD civile. Bon, c'est sûr que moi, je suis tout à fait d'accord pour faire une conférence, par exemple, à Airbus. Hein, parce que moi, ma tasse de thé, c'est pas la recherche militaire. Ça, je crois que tout le monde l'aura compris. Hein, il y a longtemps que j'ai écrit un livre là-dessus. Et dans mon bouquin, je révèle, j'en ai déjà parlé, les avancées considérables qu'ont pu faire les Américains en matière de vol hypersonique. Et ce vol hypersonique, comme je l'ai dit, il y a deux choses. Il y a un avion espion orbital qui décolle par ses propres moyens et qui peut se mettre en orbite et réatterrir, etc., qui est Aurora. Et puis, il y a un deuxième type d'appareil qui est un bombardier hypersonique à très long rayon d'action. Ben, tout le monde sait que les appareils militaires, ça finit par devenir des appareils civils. Hein. Quand les gens ont traversé l'Atlantique sur un Boeing 707, ben c'était la version civile modifiée et améliorée du B-47, quoi, ou du B-52. Quoi. Ce sont des engins qui sont assez voisins. Quoi. Ils ont leur moteur en pod et tout
pas,
ça.
Pas le B-52, quoi. Des gens, quoi. C'est pas la même catégorie.
C'est pas la même catégorie, mais c'est un peu pareil. Et ce qu'on peut se dire, effectivement, on peut être contre tout type d'armement en disant il faudrait tout arrêter, il faudrait arrêter. Seulement, il y a une chose, c'est que ces engins hypersoniques sont les transports de l'avenir. Hein. C'est-à-dire que le bombardier hypersonique, un jour, vous prendrez un appareil qui vous mettra de New York à Tokyo en 2 heures. Bon. Et si la compagnie Airbus m'invitait à faire une conférence là-dessus, moi, je serais ravi de leur expliquer comment ça fonctionne. Je ne sais pas si ça se fera. Enfin, je ne pense pas, d'ailleurs, parce que tout le monde a tellement peur du sujet OVNI, c'est extraordinaire. Dès qu'on a le malheur de lier les deux choses, c'est une catastrophe.
Mmh. Jean-Pierre Petit, avant de libérer Emmanuel Joss pour se concentrer sur le sujet de la saga de l'ufologie franco-française, on va demander à Emmanuel si lui-même a... Je sais pas, un conseil d'orientation, genre point de départ, tremplin de cette mise en place, Emmanuel.
Je voudrais préciser quand même quelque chose, c'est dire que on peut rester complètement anonyme, hein, si des gens voulaient contribuer sans s'impliquer de manière visible, hein, parce que ça peut, on sait tous que ce sujet peut entraîner de nombreux problèmes pour des gens qui peuvent s'intéresser de trop près. Donc en fait, on peut très bien être actif en restant anonyme, et on peut aussi l'être beaucoup moins et pas du tout. Bon, donc ça c'est à chacun de voir, hein, selon ses possibilités, la façon dont il veut s'impliquer.
Par exemple, un scientifique de haut niveau qui...
Par exemple, un scientifique de haut niveau
sa carrière.
Qui trouverait, voilà.
Peut-être que j'aurais oublié de préciser ça, et Emmanuel a parfaitement raison de le dire. Parce que c'est vrai que le fait de se manifester dans ce domaine-là, si on demande aux gens, donnez-nous votre nom, etc., qu'on fait figurer le nom, l'adresse, etc., ça peut être dommageable. Hein. Moi, j'ai même eu dans cette liste un type qui était ingénieur à Alger. Je lui ai dit, écoutez, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre votre nom, je sais pas, mais en plus, dans le pays où vous êtes, c'est pas commode. Quoi. Bon, c'est vrai que c'est... Mais ce qui compte, c'est d'être présent. Quoi. Il vaut mieux un gars qui a pris le pseudonyme de Nicolas Bataille, par exemple, et qui est vraiment actif, plutôt qu'un gars dont c'est le vrai nom qui ne fout rien. Quoi. Alors, il y a aussi une chose, c'est que les scientifiques, alors là, par exemple, un jeune type qui dit « Moi, j'aimerais bien figurer, mais je compte être candidat au CNRS. » Alors ça, s'il met son nom sur cette liste, il est foutu. Quoi. Là, c'est pas la peine. Donc, si ce type-là peut participer à quelque chose, il faut qu'il ait un pseudonyme. Sinon, sa carrière est foutue. Je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que moi, j'ai des collaborateurs, j'ai des gens avec qui je travaille. nous avons fait un travail déjà assez important. Par exemple, j'ai eu plusieurs communications, publications, dans des congrès que j'ai fait, avec un type qui a fait des simulations numériques sur ordinateur, qu'on voit d'ailleurs dans on a connu la moitié de l'univers. Et ce garçon a signé les papiers Frédéric Lanceat. Mais il s'appelle pas Lanceat, c'est pas son nom. Donc voilà un gars qui est tout à fait intégré dans le monde de la recherche et qui n'a aucun ennui parce qu'on ne sait pas qui c'est. Parce qu'on ne sait pas qui travaille avec moi. Il a travaillé avec moi, il a publié avec moi. Mais dès le départ, j'ai dit, oh là là, vite pseudonyme, sinon vous allez les emmerdes. Bon, ben, ça n'a pas empêché que le travail se fasse. Bon, il a co-signé, il aurait pu co-signer ou pas co-signer, il a mis un faux nom. Ben voilà, c'est tout. Et si vous voulez, dans le monde scientifique, on en arrive au point où il y a des gens qui travaillent avec moi et qui co-signent mes articles en mettant des faux noms. Sinon, eh ben, je vais donner un autre exemple de quelqu'un qui, lui, s'est manifesté, c'est mon camarade Pierre Midi, avec qui je travaille depuis 10 ans. Voilà un type qui fait un travail phénoménal, qui a sorti des résultats de recherche tout à fait extraordinaires, qui a publié dans des revues de très haut niveau. Il est ingénieur CNRS, et il y a 6 mois, on vient de sucrer sa prime de recherche de 2000 francs. Alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais... Vous savez, c'est vertigineux, parce que au CNRS, les gens ne sont pas tous productifs. Loin de là, il y a des gens qui font des cocottes en papier. Celui-là ne fait pas de cocottes en papier. Je sais pas, je crois qu'il a 62 ans ou un truc comme ça. Alors, c'est vrai qu'on entend dire des choses comme, par exemple, le CNRS a décidé de donner des consignes qui consistent à pousser les plus de 60 ans à partir en pré-retraite, de façon à faire des postes frais. Alors effectivement, on tend à dire aux gens, bon écoutez, vous avez plus de 60 ans, est-ce que vous n'allez pas partir à la retraite? Bon, il y a même que ça arrange, hein. Y a plein de gens qui foutent le camp à la retraite parce qu'ils en ont marre, en plus ils n'ont pas d'idée, etc. Alors c'est vrai, on pourrait dire, ça c'est un peu un mythe, les gens dans leur carrière de recherche, ils ont toutes leurs idées entre 20 et 30 ans, et puis après ça s'arrête, leurs neurones s'arrêtent. Bon ben, Midi est peut-être un cas exceptionnel, mais il y a des tas de gens qui continuent à des idées extraordinaires, alors qu'ils ont un âge avancé. Bon, j'ai un voisin qui est Jean-Marie Souriau, mathématicien, bon ben il a 80 ans, et c'est un type, j'ai des amis mathématiciens qui le connaissent, et qui disent, c'est le gars le plus intéressant de la région. C'est quand même extraordinaire, vous voyez, Aix-Marseille, c'est quand même assez vaste. Hein. Bon, voilà, j'ai un ami mathématicien qui a un petit peu exploré ce coin, puis il me dit, ben, Souriau, c'est le type qui est le plus vivace, et il a 80 ans. Donc, ceux qui ont 45 ans, ils courent derrière. Quoi. Donc, Midi a plus de 60 ans, et il a une dynamique de recherche, il est en train de faire un truc fantastique. Je vais même donner un peu un exemple du dernier travail qu'il a fait, que j'ai co-signé d'ailleurs avec lui, un travail qu'on a fait ensemble, et qui a été publié dans un colloque international à Mannheim, qui a fait l'objet d'un article dans une revue International Journal of Physics Day, tout ça, qui est un truc de très haut niveau, et ça consiste à faire de la physique relativiste dans un espace à plus de 4 dimensions. Hein. Ça, c'est très à la mode. Tout le monde dit, ah oui, il y a des dimensions supplémentaires, etc. Et quand on fait de la géométrie dans ces espaces, on manipule des objets qui s'appellent les tenseurs. Peu importe ce que c'est, simplement, ça a la réputation justifiée d'être quelque chose de très compliqué. Alors déjà, quand on fait des calculs en 4 dimensions, c'est pas de la tarte. Et quand on commence à monter à 5, 6, 7, 8, etc., le nombre de termes croît de façon phénoménale. Et alors, Midi, qui est un type qui connaît très bien ce qu'on appelle les calculateurs formels, c'est-à-dire des programmes d'ordinateur qui font des calculs automatiques, eh bien, arrive à gérer des calculs avec 10 000 termes. Donc ça permet de faire fonctionner quelque chose qu'on ne pourrait pas faire manuellement. Et là-dedans, il joue un rôle de pionnier. Il est allé à ce congrès en Allemagne, il a été invité en Russie, il a des contacts des gens, c'est un type qui a une dynamique de recherche fantastique. Et moi, je trouve incroyablement choquant que quelqu'un au CNRS se soit permis de lui supprimer de sa prime de recherche de 2000 balles. Parce que c'est un gars qui a deux gosses, qui font des études supérieures, il a des charges, il n'y a que lui qui travaille, sa femme ne travaille pas. Je trouve ça, je n'hésite pas à le dire, profondément déclasse, quoi. Et ça, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Est-ce que c'est parce qu'il travaille avec moi? Je sais que moi, j'ai eu pas mal d'ennuis. Hein. Mais si vraiment travailler avec moi, ça donne ce type d'ennui, alors il vaut mieux pas.
Ça, c'était pour boucler sur effectivement l'anonymat.
Oui.
Lancé donc, par Emmanuel Jost, qui est toujours avec nous. On va conclure avec Don Quichotte.
Oui, voilà.
Et Emmanuel.
On va juste rajouter deux petites choses.
Oui.
C'est en fait de préciser, mais ça Jean-Pierre Petit pourra développer s'il veut, mais un aspect international qu'on aimerait donner au mouvement, parce qu'il n'est pas question de rester dans les frontières étriquées de l'Hexagone, c'est un phénomène qui concerne la planète entière. Donc
il faut des traducteurs.
Donc voilà, donc la communication internationale sera nécessaire, donc bienvenue aux traducteurs de toutes les langues. Et puis aussi que les gens vont certainement, et ont commencé déjà à manifester leur désir pour certains de se regrouper en région afin d'agir localement. Voilà. Sinon, je remercie beaucoup votre radio ici et maintenant parce qu'elle permet la diffusion des émissions ultérieurement sur le net, et ça c'est pas tout le monde qui met à disposition l'information.
Mm-hmm. Et grâce à notre copain Christophe Leleu, puisqu'on en est en remerciement, et son site http://miragexpress.free.fr. Mirage Express, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas de souligné, c'est en un seul mot. miragexpress.free.fr, 48 heures après une émission comme celle-ci, ça se trouve disponible en téléchargement sur le net.
Voilà, et puis on peut peut-être rappeler le site de Don Quichotte.
Bien sûr.
Sur lequel Thomas a pas mal bossé aussi, http://don-quichotte.org. Là, il y a le lien vers le forum et vers la liste de diffusion de discussion.
Impeccable.
Voilà. Bonne soirée.
Impeccable, voilà, tout est dit. Les bases sont placées, maintenant au travail, quoi.
Ouais, il y a du boulot. Bien. Et je pense que l'important, c'est que le mouvement, effectivement, soit lancé.
Effectivement, et juste avant de se quitter, je remarque comme ça, face à Jean-Pierre Petit, que l'Internet va peut-être permettre une meilleure gestation que le gesto, et qui a été lancé à l'époque où il n'y avait pas ce moyen fabuleux de communication.
Ouais, et puis là, ce qui est important, c'est en fait de brasser des gens de partout, de tous les milieux, et d'essayer d'organiser ça de façon la plus efficace possible, quoi. Mais en tout cas, ce qui est important, je crois, c'est de pas rester seul dans cette recherche, parce qu'une fois qu'on a commencé à s'intéresser au phénomène, il est très tentant de passer ses journées à rechercher de l'information, à collectionner finalement, sans que ça avance, quoi. Et je crois que pour avancer, la bonne occasion, c'est de se regrouper en association, se positionner en citoyen, et puis de faire avancer l'information et la recherche.
Oui, et ce n'est pas un fan club, rappelons-le, ce serait une perte de temps que d'y évoquer à longueur de journée la publication de Jean-Pierre Petit. Est-ce que tu as un bouquin original? Le mien est dédicacé.
Ouais, non, c'est ça. Ouais.
Rien à battre de tout ça, faut se dégager de ça.
Non, il y a des actions très concrètes à entreprendre.
Voilà.
Merci.
Merci Emmanuel Joss, on aura maintenant l'occasion de se retrouver. Jean-Pierre Petit, on marque une toute petite pause et puis on va peut-être améliorer le son et on se retrouve dans un très court instant.
Ok.
Radio ici maintenant, 95.2, on reprend là tout de suite maintenant. Donc cette émission avec Jean-Pierre Petit sur la saga ufologique en France. Et apparemment, Jean-Pierre Petit, vous avez quelquefois des mots qui fâchent, comme par exemple, je vous ai entendu dire, les ufologues me donnent des boutons. Vous contrariez quand même pas mal de gens sur votre parcours.
Disons que faut voir un petit peu ce qu'on appelle l'ufologie. Peut-être là, il faudrait un petit peu attaquer cet aspect historique.
Mmh.
Parce que comme c'est une chose qui démarre avant 75, certainement plus de 25 ans, c'est 27 ans. Donc des gens qui ont 35 ans, ils étaient au berceau, quoi, à cette époque-là. Il faut vraiment des soixantenaires pour avoir un recul suffisant sur ce problème. C'est ça qui est absolument embêtant. Donc nous qui avons 65 ans, on est là pour rappeler un petit peu aux gens comment les choses se sont passées. Alors, je voulais d'abord expliquer que le phénomène OVNI dans le monde entier, tout le monde sait, tout le monde l'a lu dans 36 000 livres, ça démarre à la fin des années 40, surtout avec l'observation de Kenneth Arnold.
47,
là, c'est ça. Puis il y a une vague, et puis une deuxième vague, une troisième vague, etc. Bon, ça commence à défrayer un petit peu la chronique. Et effectivement, à l'époque, les historiens qui se sont penchés sur cette chose-là s'accorde à dire que il y a eu un certain temps pendant lequel les Américains ont été un petit peu dépassés par les événements. Hein. Disons jusqu'à l'histoire de Roswell, où à ce moment-là, il y a eu un coup de frein donné et où on a eu une prise de contrôle complète. Et d'après les informations que j'ai pu avoir, moi, cette année 47, il y a eu au moins un crash d'appareil. Et c'est certain que si quelque chose comme ça se produit, ça représente une prise de conscience pour une nation immédiate. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus à se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Quand on a devant soi un truc qui s'est crashé, qui ne ressemble pas à un avion, qui ne fonctionne pas comme un avion, parce qu'en 1947, il faut voir où en était l'aviation. Hein. On balbutiait à peine dans le supersonique. Hein. Donc, tout d'un coup, voir des trucs passer à toute vitesse, et puis il y en a un qui se casse la figure, on regarde, on s'aperçoit que c'est pas du tout la technologie de l'époque. Donc, à ce moment-là, le gouvernement américain a été saisi du problème et la réaction a été de dire, c'est ce qui m'a été dit moi par des Américains que j'ai rencontrés, qui eux sont assez impliqués dans ce genre de choses. En haut lieu, on a dit, je ne sais pas qui a dit ça, mais on a dit, blackout complet sur cette histoire, et même la réaction des Américains a été de dire, on n'a pas envie que ça recommence comme avec la bombe atomique. Je sais que les Russes, quand on lit l'histoire du nucléaire, ils avaient déjà des idées sur la fission et même sur la fusion, ils n'avaient pas besoin des Américains. Mais disons que le fait que le projet Manhattan ait été connu, ça a dynamisé toute une recherche nucléaire dans le monde. Et essayez d'imaginer une chose, par exemple, c'est que au lieu de faire péter une bombe à Hiroshima et d'en faire péter pas mal en plein air, on est débarré tout de suite par des explosions nucléaires furtives. On peut même les rendre indétectables au sismographe. Mon camarade Judici m'a passé un papier très intéressant là-dessus. Bon, on s'aperçoit que si on prend des bombes atomiques de puissance assez modérée et qu'on les fait exploser dans des cavités de 20-30 mètres de diamètre, 1000 mètres de fond, il n'y a pratiquement pas de signal en surface. Donc autrement dit, des gens, enfin, une nation comme les États-Unis aurait pu développer l'arme nucléaire et que ça ne sache pas. Et ces gens pourraient détenir cette arme nucléaire, donc une supériorité absolument phénoménale sur les autres nations, sans que ça se sache.
Oui, mais il y a eu Pearl Harbor, et ce qui leur a semblé une nécessité de réaction contre le Japon.
Oui. Ah oui, bien sûr, parce que là, je veux dire que si les gens vont voir sur mon site, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve, on trouvera un dossier qui correspondait à une émission qu'il y avait eu sur Arte sur la façon dont les Japonais avaient commencé à développer des armes bactériologiques dès 1931, lorsqu'ils avaient envahi la Mandchourie. C'est absolument effarant, quoi. Et quand les Japonais ont envahi cette partie de la Chine, ben, ils se sont dit, voilà, on a du matériel humain sur lequel on va pouvoir commencer à étudier des armes bactériologiques. Et à ce moment-là, ben, ils ont étudié toutes les souches possibles d'anthrax, de peste, de bubonique, de n'importe quoi. Et par exemple, pour ce qui est de, je sais pas, du choléra, eh bien, on mettait des bacilles du choléra dans le puits d'un village. Alors, à ce moment-là, les Chinois tombaient malades, et à ce moment-là, les médecins japonais venaient en disant, ah, il y a une épidémie, et ils regardaient ce que ça faisait. Autrement dit, est-ce qu'on peut arriver à donner aux gens le choléra, ou n'importe quoi. Et quand on regarde cette émission, j'ai donné un petit peu un aperçu dans mon site, j'ai été effaré. Les nazis sont loin derrière. Il faut dire une chose, c'est que lorsque les Japonais ont fait ça, ils n'étaient absolument pas pris à la gorge par une menace d'invasion américaine. La guerre ne s'est même pas encore déclarée. Même la guerre de l'Allemagne. Ils ont créé cette arme bactériologique dans le but de presque de conquérir le monde. Donc il y a eu un institut de recherche qui a été créé et les Japonais ont même fait des essais en se disant est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à la peste. Alors la peste, ben, enfin, c'est véhiculé par les rats. Mais c'est aussi présent dans les puces des rats. Et les Japonais ont largué un kilo de puces sur une ville chinoise et ils ont fait 500 morts. Et il y a eu une mini-épidémie de peste qui s'est déclarée dans ce quartier, parce que des gens ont touché ces puces. Il y a même, dans le film, on voyait un rescapé qui témoignait. On voyait des Japonais qui témoignaient qu'ils avaient participé à l'opération. Et évidemment, les médecins japonais venaient pour voir comment ça marchait. Donc, on pourrait faire toute l'émission de ce soir là-dessus, tellement c'est monstrueux. Par exemple, vous savez que lorsqu'on veut sélectionner une souche bactérienne virulente, ben, à ce moment-là, on essaye, pour l'anthrax, d'essayer de trouver la plus meurtrière. Et si vous avez des gens qui meurent, par exemple, de l'anthrax, eh bien, lorsqu'ils sont mourants, ils sont victimes de la souche la plus virulente, puisque c'est celle dont leur système immunitaire n'a pas pu venir à bout. Donc, les Japonais se sont dit, le meilleur sélecteur de souches, c'est l'homme. Donc, prenons des Chinois, nous
nous les injectons à l'anthrax, et quand ils sont mourants, eh bien on les anesthésie et on les saigne. Et il y a un témoin japonais qui a raconté qu'il a participé à ce genre de choses, et qu'à ce moment-là, on prenait un chinois anesthésié, et on le saignait, et pour que le sang sorte mieux, il y avait un soldat qui lui sautait sur la cage thoracique à pieds joints pour faire sortir le sang, quoi. Et à ce moment-là, on récupérait du sang avec les bonnes bactéries, le bon anthrax bien balèze, quoi. Bon, cette émission est complètement hallucinante. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que lorsque le Japon s'est effondré, les Américains ont pris pied sur l'île japonaise, et à ce moment-là, ont eu vent de ces recherches. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont garanti l'impunité aux scientifiques et aux médecins qui avaient travaillé là-dessus, en échange du fait qu'ils ne détruiraient pas leurs archives. Ce qui fait que, et ça l'émission d'Arte le montrait entièrement de A à Z, donc l'unité qui a travaillé sur ces armes bactériologiques, qui a fait des milliers de morts, hein, eh bien elle a sa stèle commémorative, comme ont toutes les unités japonaises qui ont participé à la guerre, et les archives japonaises sont parties aux États-Unis, qui se sont mis immédiatement à développer ce genre de choses. Et alors, quand on parlait, par exemple, de couverture variolée, il y a une chose, c'est que les Japonais ont envoyé des ballons, et ces ballons ont traversé le Pacifique, et un certain nombre, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, ont réussi à toucher la côte ouest américaine, et ils étaient équipés de telle façon que lorsqu'ils arrivaient sur la côte ouest, et qu'ils commençaient un peu à monter en altitude à cause de l'ascendance, en escaladant les collines, à ce moment-là, il y a une soupape qui se déclenchait, le ballon tombait par terre. Ce qui fait que les Américains ont trouvé 4 ou 5 ballons, comme ça, de fabrication japonaise. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à faire un blackout complet, ce qui fait que les Japonais n'ont jamais su que leur ballon avait atteint l'Amérique. Alors, évidemment, à l'époque, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait cette émission d'Arte, tout le monde s'était dit, mais à quoi ça sert de bombarder l'Amérique avec des ballons? On peut rien transporter sur un ballon, on peut transporter 1 kilo. Ben oui, mais si c'est 1 kilo de plus avec la peste, on peut tuer du monde. Et on faut comprendre une chose, c'est que les Japonais, ils avaient vraiment... Ils n'ont reculé devant rien, quoi. Ils auraient éventuellement provoqué des épidémies monstrueuses aux États-Unis. Ce qui fait que quand on voit tout l'apitoiement, je ne parle pas des populations civiles, mais qui accompagnent l'emploi de l'arme nucléaire, ben eux, ils n'avaient pas l'arme nucléaire. Mais s'ils avaient pu développer les armes bactériologiques de manière efficace, je vous garantis qu'ils les auraient utilisées. Donc je ne sais pas pour de quoi on avait parlé de ça, mais...
On avait parlé du fait que les Américains avaient mis la main, avaient bénéficié, disons, d'un crash, avaient mis la main sur une technologie de pointe en 47.
C'est pour montrer qu'on peut cacher des choses. Alors il y a une chose, par exemple, je ne sais pas si j'avais déjà parlé, mais qui est extraordinaire à propos des informations. Il y a deux types qui ont pratiqué en Allemagne pendant la guerre une désinformation extraordinaire, ce sont des gens à qui il faudrait lever une stèle. C'est Werner Heisenberg, qui est le prix Nobel de physique bien connu, l'auteur du principe de certitude, et l'autre c'est von Weizsäcker, et tous les deux, ils ont continué à être le noyau des recherches nucléaires dans l'Allemagne nazie. Et ils ont réussi pendant toute la guerre à faire croire à Hitler que la masse critique, ça faisait 50 tonnes. On ne sait pas combien, mais on sait que ça fait 10 kilos, quoi. Et lorsque les nazis disaient, mais cette énergie nucléaire qu'on peut avoir pour la fusion, est-ce qu'on pourrait en faire des bombes? Et Heisenberg disait, non, ce serait beaucoup trop lourd. Est-ce qu'on pourrait en faire des avions? Non, ce serait beaucoup trop lourd. Et finalement, Heisenberg leur avait dit, à la limite, qu'on pourrait peut-être envisager une chaudière pour faire naviguer un bateau, donc ça n'a pas intéressé les nazis. Or, Heisenberg savait parfaitement que la masse critique était faible, et il l'a caché aux nazis pendant toute la guerre.
On n'est passé pas loin, ouais.
On n'est pas passé loin. Et voilà un homme qui n'a même pas pu... Il y a un livre qui a été édité aux éditions Albin Michel, je ne sais plus qui a écrit ce livre, qui s'appelle L'affaire Heisenberg. C'est un livre de 8 ou 900 pages, il faut le lire. Hein. Et il y a toute une enquête là-dessus, et la conclusion, c'est que Heisenberg savait parfaitement tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il le savait? Parce que, vous savez peut-être que... Après l'effondrement de l'Allemagne nazie, il s'est écoulé un moment où, entre l'effondrement de l'Allemagne et puis la capitalisation du Japon. Entre les deux, on a ramassé tous les atomistes allemands et on les a internés tous ensemble dans un endroit qui s'appelait Farm Hall en Angleterre. Donc il y avait Werner Heisenberg, il y avait von Weizsäcker, et puis il y avait Otto Hahn, enfin il y avait tous les pionniers de ce genre de choses. Bon. Et un jour, à la radio, ils ont entendu
l'Amérique à la chute monotonique sur Hiroshima. Hein, et ça a fait tel résultat. Eh bien, dans l'heure qui suivait, Eisenberg avait trouvé un tableau noir. Il a expliqué à ses collègues comment c'était foutu. Il a calculé la masse critique. Ouais, qu'il a retrouvé la mémoire, quoi. Mmh. Il leur a expliqué comment ça fonctionnait. C'est curieux, hein. Disons que, il s'était trompé dans ses calculs pendant toute la guerre, et tout d'un coup, à Farmall, il retrouvait son agilité de théoricien.
Oui, sauf qu'il avait désinformé, ses chefs.
Oui.
Et il n'avait pas désinformé la population, comme ça s'est trouvé, dans les années suivantes, où effectivement, c'est la population, elle, qui a été victime,
oui,
de désinformation.
Mais ça, je crois que, s'il y a une chose qu'on doit retirer de cette émission de ce soir, ou de mes livres, ou n'importe quoi, c'est que, il y a deux choses qu'il faut bien garder en tête. Il y a l'information et la désinformation. Et de nos jours, ça n'a jamais été aussi valable. Hein, on désinforme les gens plein tôt. Hein. Alors, maintenant, j'aimerais donc revenir un petit peu à cette histoire de l'OVNI. Avant 1975, les hautes sphères françaises ne savaient pas trop quoi faire. C'est sûr que, par exemple, dans les sphères militaires, et donc dans les sphères politiques, mais déjà dans les sphères militaires, prenez l'exemple de l'armée de l'air, il y avait quand même des pilotes à qui il arrivait des tas d'histoires. Ces histoires, d'ailleurs, sont restées confidentielles très longtemps. Il a fallu qu'il y ait la publication de plaquettes comme Cometa ou des numéros spéciaux de VSD OVNI pour qu'on voit tout d'un coup des militaires de haut rang qui retrouvent la mémoire, quoi, qui racontent des choses qu'il était arrivé en telle année ou en telle année, etc. Et je me rappelle même un témoignage, je ne sais plus de qui il s'agissait, d'un type, je crois qu'il était pilote de Mirage 4, et il a vu ce coup volant qui arrivait en pleine poire, et il a mis ses deux mains dans sa figure pour montrer à quel point ce n'était pas vraiment le petit point qui passe à l'horizon, quoi. Donc, il y avait...
Oui, c'était Giraud.
C'était Giraud. Il y avait beaucoup de témoignages comme ça qui arrivaient, ça faisait un dossier, et puis parfois, les gens qui examinaient ça ne pouvaient pas dire ce sont des gens qui boivent, ils ont des hallucinations, c'est pas possible, quoi. Il y avait des types qui voyaient leur frère d'armes, le gars avec qui ils avaient fait leurs études et tout ça, qui disaient, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc ils ne savaient pas. Les gens ne comprenaient pas, quoi. Et... les Américains, eux, dès 47, ont su exactement à quoi s'en tenir. Et à ce moment-là, ils ont mis en place un plan de désinformation que vous ne pouvez pas imaginer. Ça a été concerté, ça s'est traduit en particulier par des choses comme le rapport qu'on donne et tout ça, et ça a envahi complètement la planète. Et ça a utilisé toutes les formes possibles imaginables. Par exemple, un gars comme Jacques Vallée, un Français vivant aux États-Unis, s'est mis à développer dans les années 70 une espèce de thèse sur le paranormal. Et moi, j'ai participé personnellement à une émission il y a plus de 20 ans avec Vallée chez Polak. Et lorsqu'on lui a donné la parole, il a dit « Eh bien, moi, je serais personnellement très déçu si les ovnis ne correspondaient qu'à des visites d'extraterrestres. » Lui, il voulait mélanger les apparitions de la Sainte Vierge, les ovnis, le paranormal, etc. Et ça marchait fantastiquement. C'est pour ça que quand je disais un peu que les ufologues me donnaient des boutons, disons que dans les années 70-80, c'était la grande mode. Parce que, vous comprenez, n'importe qui peut être spécialiste du paranormal. C'est formidable. C'est pas facile de faire de l'astrophysique ou de la MHD ou des choses comme ça. Par contre, le paranormal, vous trouviez beaucoup de ufologues qui pouvaient vous raconter des tas de choses comme ça, et palabrer à n'en plus finir.
Jean-Pierre Petit, il y a un énorme paradoxe, alors, pour la situation française. C'est qu'à force d'avoir dénigré et d'avoir couvert la vérité,
oui,
les autorités ont accumulé un retard considérable vis-à-vis des Américains, qui eux ont couvert également, mais en ayant déjà l'avantage depuis 1947 d'être engagés sur une piste technologique.
Les Américains ont couvert. Carrément, ils ont couvert chez eux aussi. Hein. Je veux dire que si vous allez sur le site de la NASA, vous verrez la position officielle de la NASA sur les ovnis, elle est complètement caricaturale. Elle vous dira que c'est vraiment perdre son temps. Quoi. Regardez par exemple le livre récent qui vient de sortir aux éditions du Châtelet, qui s'appelle « La science face à l'énigme des ovnis », qui est signé par un Américain qui est Peter Sterock, que j'ai bien connu, qui est officier des Plasma, qui est un compère de Jacques Vallée. Bon, si vous lisez ce livre, c'est extraordinaire, parce qu'on revient avant les années 70. Je veux dire que c'est une tentative de désinformation, on ne peut pas faire mieux. Dans ce livre, par exemple, François Louange, qui s'occupe de la société Fleximage, qui a beaucoup collaboré avec le GEPAN, avec le CEPRA, avec le CMES, etc., dont il fait l'audit d'ailleurs, il fait l'audit du CEPRA, ça doit
donné lieu à...
Qui a participé à l'étude Cometa.
Absolument, il a aussi participé à l'étude Cometa. Bon, bah, Louange a publié en 1983, ça fait 19 ans, une note technique, et j'ai reproduit les premières pages de mon site internet, qui se réfère à l'élaboration d'un produit extrêmement astucieux, qui est un spectre, une bonnette permettant d'obtenir des images spectrales d'OVNI. Alors, j'explique. Au début de l'astronomie, on se contentait de regarder dans l'oculaire des télescopes, on voyait une tache, on voyait ceci, on voyait cela, pour les étoiles, on disait, ah, celle-là, elle est un peu bleue, celle-là, elle est un peu rouge. Et puis un jour, je ne sais plus qui est-ce qui a fait ça, je crois que c'est Fraunhofer, enfin, il y a toute une histoire de l'astronomie là-dessus, où on s'est amusé à mettre un prisme derrière un oculaire. Et à ce moment-là, le prisme s'est avéré une source d'information fantastique. Un astronome à qui on dirait on ne peut pas spectroscopie, il dirait, mais alors à quoi on sert, quoi. C'est-à-dire que vous prenez une étoile dans le ciel, vous mettez un prisme, et vous obtenez à ce moment-là des raies, et vous connaissez la composition chimique de son atmosphère, vous connaissez sa température, vous connaissez son champ magnétique, vous avez énormément d'informations. Bon, maintenant, on a remplacé plus commodément le prisme par, on pourrait dire, une espèce de succession de mini-prismes. Ce sont ce qu'on appelle des réseaux, qui sont des bouts de plastique avec plein de petites rayures qui ressemblent un petit peu à des tuiles, hein. Et ça produit exactement le même effet. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un objet derrière un réseau, ben, on obtient une décomposition comme ça spectrale. Et à ce moment-là, Claude Poher, qui a été le chef du GEPAN quand il a écrit en 77, et ça faisait longtemps qu'il pensait à cette idée, il a dit, il faudrait absolument qu'on obtienne un spectre d'OVNI. Et ça, c'est une idée extraordinaire, parce qu'elle est simple de mise en œuvre, elle est d'un coût modéré, et ça peut apporter des informations extraordinaires. Donc, Poher a cette idée-là, et se met en contact avec une société optique française qui s'appelle Jobin et Yvon, hein, et à ce moment-là, Louange était déjà... soit dans le coup à cette époque-là, soit il y est venu très rapidement, puisqu'il fait en 83 un rapport où on voit la mention de cette société, et l'idée c'était de développer des bonnettes, et en fait ces réseaux, ce sont des... On les fabrique presque au mètre carré, quoi. Je veux dire que c'est juste un truc à découper, puis il faut mettre une petite bague en métal pour que ça puisse se fixer sur un objectif, c'est tout.
Donc ça peut s'adapter sur un appareil jetable.
Absolument, mais bon, alors l'idée était absolument lumineuse et simple. La société Jobin-Yvon très vite produit ce type de gadget, quoi, hein. Et si vous lisez le début du rapport de Louange en 83, on lit que les premiers clients de ce matériel ont été les gendarmes. C'est pas que les gendarmes ont demandé à acheter des trucs, c'est qu'on les a dotés de ce genre de choses. Et le texte dit que plusieurs milliers, c'était en 83, de bonnettes ont été distribuées à la gendarmerie. Et rappelez-vous une chose, c'est que la gendarmerie française, c'est un corps militaire, donc un train de secret défense. Tiens, moi je vous dis, toutes les équipes de gendarmerie française ont des bonnettes qui permettent de faire un spectre d'OVNI. Ça fait partie de leur dotation réglementaire. Maintenant, si vous allez interroger un gendarme en lui disant, est-ce que vous avez une bonnette pour faire des spectres, il vous répondra soit non, soit, je n'ai pas à vous répondre, mais il faut rester en secret défense, et c'est un truc... Alors, c'est ça, la question centrale qui apparaît un petit peu dans les papiers que j'ai commencé à positionner sur mon site et dans mon livre et tout ça, est-ce que l'OVNI, est-ce que ça relève du secret défense ou pas? Et dans le livre de Storrock, il y a une phrase où il dit, pendant 20 ans, les services du CNES ont mené sur les ovnis une recherche purement civile sans aucune implication militaire. Et c'est là qu'on va approfondir un petit peu. C'est faux. Le premier client de l'OVNI, c'est l'armée. Et ça, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en France aussi. Et c'est là que, si vous voulez, maintenant, il faut que les masques tombent, il faut que les gens se rendent compte. Et ce sera peut-être aussi un des buts de cette association Don Quichotte. Ces gens-là vont informer. Et informer les gens, c'est les informer en disant, on a créé en 77 une officine pour recueillir de l'information. Mais ne croyez pas que c'était pour vous donner les résultats. C'est la boîte aux lettres de l'armée, rien d'autre. Et dans le rapport Cometa, il est écrit, par exemple, que le CEPRA, et anciennement le GEPAN, était équipé pour faire analyser les échantillons par différents laboratoires, dont le TCA. Et le TCA, c'est l'établissement technique central de l'armement. Donc c'est le laboratoire militaire. Et en fait, je pourrais même dire que c'est le labo qui analyse tous les échantillons que recueille le CEPRA. Ce qui fait que lorsque vous avez une enquête CEPRA et que vous entendez son responsable dire « des analyses sont en cours, quand on a des résultats, on vous préviendra », eh bien, je crois que vous pouvez toujours attendre, parce que ces résultats sont analysés dans les laboratoires militaires et ils n'en ressortent plus. Alors, il y a une phrase merveilleuse, vous la trouverez même dans le début de cette note de louange de 83. Où il est dit que la société Jobin-Yvon va essayer de développer ses bonnettes avec un prix le plus bas possible, et situé inférieur à 100 francs. Et je crois que c'était pour un nombre de 500. C'est pas beaucoup, 500. Hein, je veux dire, commander 500 bonnettes, bon, bah, ça permet de les faire tomber à 100 balles. Mais si c'était 5000, elle coûterait plus 100 balles, elle coûterait 10 francs ou 20 francs. Ça coûte pas cher, une bonnette de ce genre. Et le texte dit que la société Jobin-Yvon estime que son but, sa fonction, n'est pas de fournir les appareils du commerce avec ce genre de truc, parce qu'il faudrait une commande d'au moins 500 pièces. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune promotion qui a été faite pour mettre cet appareil à disposition du public. Et là, il y a quelque chose d'illogique, parce que les ovnis n'apparaissent pas qu'aux gendarmes. Et si on avait voulu disposer de spectre le plus rapidement possible, il aurait fallu filer ça au maximum de gens. Or, ça n'a été donné qu'aux gendarmes. Donc, ça fait partie, si vous voulez, d'un des buts concrets d'une association comme Don Quichotte. Et Don Quichotte, il y a beaucoup de jeunes là-dedans, c'est des braves gosses de 30, 35 ans qui veulent faire quelque chose. Bon, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont plus âgés, qui ont plus de bouteilles, il y aura peut-être des ingénieurs, il y a des gens de tous horizons qui se mettent là-dedans. Alors, évidemment, leur réticence, c'est vrai qu'au début, quand il y a eu un peu cette cacophonie, c'est est-ce que ça va pas virer au club ufologique, hein, le club ufologique, à ce moment-là, vous avez des gens qui s'écoutent parler, qui peuvent palabrer pendant un temps fou. Tandis que là, tout à coup, vous avez un problème concret, est-ce que on pourrait pas faire fabriquer des bonnettes et se débrouiller. C'est vrai que si dans cette association il y a 500 personnes, ben à ce moment-là, on va voir la société de Jobin-Yvon, dire écoutez, nous sommes 500 et nous voudrions 500 bonnettes. Est-ce que vous pourriez nous les fabriquer? Bon ben, techniquement, c'est faisable. Et on peut même lancer un appel à un fabricant. Hein.
Ils ne sont pas sous contrat exclusif avec la gendarmerie?
Quoi?
Ils ne sont pas sous contrat exclusif avec la gendarmerie?
Ah, je pense pas, c'est absurde. C'est absurde parce que être sous contrat exclusif, je veux dire, il n'y a pas de brevet pour une bonnette de genre. Si on voulait breveter une bonnette, ça voudrait dire qu'on brevette le prisme, quoi. C'est aussi simple qu'un prisme. Ça n'est pas brevetable. Simplement, on décide de le fabriquer ou de ne pas le fabriquer. Alors peut-être que des gens arrivent avec de l'argent à la main en disant on est prêt, vous nous achetez 2000 machins, peut-être que la société dira mais écoutez, on n'a pas envie de les fabriquer. Mais il n'y a pas que Jobin-Yvon, il y a plein de sociétés qui sont fabriquées ça. Et en particulier, une chose qui serait certainement extrêmement efficace à mon avis, ce serait de faire des appareils jetables, qui à ce moment-là seraient équipés uniquement pour faire ça. Avec ce thème publicitaire, achetez cet appareil, vous le mettez dans votre sac et vous l'oubliez, mais si jamais un jour vous voyez un ovni passer, tac, 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 vous faites toute la pellicule avec, et à ce moment-là, vous avez... Et analyser un spectre de genre, ça n'est pas un travail hallucinant, ça ne demande pas un laboratoire très sophistiqué. Ça peut être fait dans un petit labo de fac ou un truc comme ça. Donc, vous voyez que s'il y avait 10 000 bonnettes en circulation sur 10 000 appareils de photos, il y aurait des photos qui seraient prises. Ah, évidemment, il y aurait peut-être des farceurs qui s'amuseraient à photographier à faire de voiture ou à lampadaire ou un truc comme ça. Mais bon, il y a quand même des moyens de discriminer, de s'apercevoir que ce cliché est faux. Puis dans ce être faux, il y aurait quand même un signal, quoi. Ouais, c'est une petite seconde.
Apparemment, Jean-Pierre Petit a calmé sur une autre ligne.
Seconde. Oui, allô, oui.
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 Oui, oui, on est là, on est de retour.
Oui, oui, je suis en pleine émission de radio, il faudrait que je vous rappelle.
Il est sur notre ligne.
Ok, voilà, donc c'est fait.
195.
Donc, voilà, donc je reprends. Hein. Donc, on voit donc une chose, c'est que, bien sûr, ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais quand les gens disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses concrètes, voilà une chose concrète qui est extrêmement simple.
Oui, mais il faudrait qu'il y ait une volonté de partage chez les militaires. Est-ce que les militaires sont prêts à partager?
Moi, je crois une chose, c'est que l'erreur, c'est de s'imaginer qu'on peut contraindre des services publics à travailler dans la clarté. Ils veulent pas. Je veux dire que, effectivement, parmi les actions possibles, aux États-Unis, il arrive qu'un sénateur, lui, se lance carrément en disant « Nous voudrions voir le dossier sur Roswell. » Ça, ça existe. Je ne sais pas si chez nous, quelqu'un aurait ce courage. Mais, par exemple, on pourrait dire « Nous aimerions voir les archives du CETRAP. » Est-ce qu'on ne peut pas mettre le nez là-dedans ? Je sais que, par exemple, Louange a fait récemment un audit des activités du CETRAP à la demande du CNES. Comme expert externe, extérieur, on ferait quand même mieux, puisque ça fait 25 ans qu'il travaillait étroitement pour eux. Qu'en plus, comme il fait de l'étude d'images de satellites, il doit être certainement sous-traitant du CNES, quoi. Donc, quand on fait un audit d'un service, on prend quelqu'un qui est censé être complètement extérieur à cette situation, ce qui n'est pas le cas. Bon. Ensuite, il a été dit dans la revue du Figaro que cet audit était un audit interne, c'est-à-dire qu'il n'était accessible qu'aux gens du CNES. Alors bon, il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'on pourrait pas avoir accès à cet audit-là. Non, ça non. Donc là, il y a une espèce d'ambiguïté. Qu'est-ce que fricote le CETRA? Qu'est-ce que fait le GEPAN? Est-ce que c'est secret ou est-ce que c'est pas secret? Est-ce que c'est une activité auquel le citoyen peut avoir accès? Ou est-ce que c'est simplement une vitrine civile d'une activité militaire? Et moi je répondrais, c'est une vitrine civile d'une activité militaire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 75-76? Revenons un petit peu à cette histoire de l'OVNI. Hein. Bon, eh ben, il y a eu des publications de Jean-Pierre Petit, Cahier des sciences. Ça fait un certain boom, parce que, disons que c'est la première fois qu'on reliait des modèles un petit peu structurés, un petit peu élaborés, scientifiquement, puis surtout il y a des publications scientifiques, il y avait des communications à l'Académie des sciences, il y a eu des modèles d'aérodynes discoïdaux, hein, qui ressemblaient effectivement aux soucoupes volantes, ça s'appelait d'ailleurs convertisseur MHD d'un genre nouveau. C'est génial. Puis ça a été passé par quelqu'un qui n'était pas n'importe qui était le professeur André Lichtenrovitz, qui est mort et qui était membre de l'Académie des sciences. Et Lichtenrovitz avait beaucoup d'estime pour moi, je l'ai su par ses élèves. Il disait, Jean-Pierre Petit, vas-y, puis très calé en MHD. Et s'il a publié ses articles, c'est parce qu'il savait que c'était debout. Il n'a pas publié des âneries. Donc voilà, ces choses-là commencent à apparaître et les militaires découvrent qu'il y a peut-être une technologie derrière tout ça et on commence un peu à comprendre de quoi il retourne. Avant que je publie ce genre de travail, il y a eu évidemment des tas de gens qui se sont imaginés que les ovnis étaient des ballons, il y a des types qui allaient emmerder les militaires en leur disant, vous savez, vous prenez un truc en lenticulaire, vous le gonflez avec de l'hélium, et ça fait ci, ça fait ça. Le type se dit, bon, ben, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Tandis que tout d'un coup, le travail de Jean-Pierre Petit, non seulement ça peut marcher, mais en plus, ça peut voler à vitesse supersonique et même hypersonique sans faire de bang. Hein. Donc voilà une machine révolutionnaire, et c'est pas le moteur à eau, je veux dire, c'est pas un canular. Et justement, lorsque j'ai sorti ce travail, il y a des gens qui ont interpellé l'Union rationaliste. L'Union rationaliste, je ne sais pas si ça existe encore, c'est peut-être moribond, enfin, disons que c'était un groupement, et à l'époque c'était le professeur Evry Schatzman, qui était astrophysicien et membre de l'Académie des sciences, qui accessoirement fut directeur de le président de mon jury de thèse, donc il me connaissait, sous qui m'était en 1974. Et Schatzman était président de l'Union rationaliste. Et à ce moment-là, il faisait des conférences dans toute la France pour donner la bonne parole, parce que les gens disaient, mais professeur, est-ce que les ovnis pourraient pas venir des autres planètes? Et à ce moment-là, il souriait en disant, ah, oh, ce serait bien amusant, mais hélas, il y a la barrière de la vitesse de la lumière, il y a ceci, il y a cela, et tout ça, ce sont des vues mystérieuses. Et à un moment, il y a un type qui dans la salle lui a dit, mais qu'est-ce que vous pensez des théories de Jean-Pierre Petit? Lui, il prétend que des machines comme ça pourraient voler avec de l'énergie électrique, faire ci, faire ça. Et Schatzman lui a fait la réponse suivante. Le modèle de Jean-Pierre Petit ne tient pas debout parce qu'une machine ne peut pas se sustenter si elle produit elle-même son propre champ électrique et son propre champ magnétique. Il y a des théorèmes qui s'y opposent. Et là, il a fait une confusion totale parce que Schatzman ne connaissait pas la MHD, tout simplement. Quand j'ai su ça, eh bien, il se trouve que moi, j'avais déjà eu un accident de travail, j'étais déjà grabataire, hein, mais je me suis dit, il faut absolument réagir. Donc j'ai demandé à Schatzman un droit de réponse. Il a essayé de se défiler tant qu'il a pu. J'ai fini par obtenir ce droit de réponse fin 76 aux assises de l'Union rationaliste qui se tenait à Annecy. Et la réponse de Jansman, ça a été, c'est pas possible que vous veniez exercer votre droit de réponse au 6-6, parce qu'il faut être membre de l'Union rationaliste. Alors j'ai dit, ben j'adhère, je veux être membre de l'Union rationaliste. Il n'a pas pu refuser, quoi. Donc je me suis trouvé membre de l'Union rationaliste, et je suis allé à cette réunion, il y avait quand même 300-400 personnes, en ambulance, parce que je pouvais pas marcher. J'ai été amené là-bas, sur place, sur un brancard, parce que j'étais déjà accidenté. Et à un moment, le président de la séance, assez nerveux, a dit... Ah oui, Kretzmann avait dit que ça pouvait marcher, et il avait même ajouté de façon moqueuse, cette histoire d'aérodyne me rappelle l'histoire du baron de Munchausen, qui est le tartarin de Tarascon allemand, et dans les histoires de Munchausen, qui est censé raconter des histoires à Bacalabrande, il raconte qu'à un moment il s'était embourbé dans un marais avec sa jument, et qu'il est sorti du marais assis sur sa jument en tirant sur sa crinière. Hein. Donc, pour Schatzmann, voler avec la MHD, c'était comme essayer de s'envoler en tirant sur ses lacets. Quoi. C'était tout le monde a ri. Moi, j'ai pas ri du tout. J'ai trouvé ça idiot. Quoi. Donc, je lui ai demandé un droit de réponse. Et le président de la séance de l'Union rationaliste, à un moment, dit, eh bien maintenant, nous allons entendre un chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Petit et qui a souhaité exercer un droit de réponse à l'encontre de M. Schatzmann, etc., etc. Alors, on a lu les propos que Schatzmann avait tenus à Grenoble, hein, exactement, ça avait été enregistré, donc ça a été lu, M. Schatzmann a dit ceci. Et alors, il y a une scène mémorable, Schatzmann m'attendait au tableau noir avec une craie, pour faire des calculs. Et à ce moment-là, un de mes amis astronomes avait construit une manip, c'était un aquarium avec de l'eau acidulée, et dedans il y avait un petit cheval, il y avait Munchausen assis sur sa jument. Alors évidemment, on avait fait un contrepoids parce que ça ne produisait pas une force considérable, mais autour de la jument il y avait un bobinage, il y avait des électrodes, presque c'était un accélérateur MHD avec des fils, et quand on branchait le fil, eh bien, Munchausen sortait de l'eau, un petit peu quoi, il bougeait. Et moi j'ai simplement dit à Schatzmann, si ce que vous avez dit est vrai, alors cette expérience ne peut pas marcher. Il a tout de suite réalisé, et ça a été un choc. Et il a dit, j'avoue que j'ai été léger dans mes déclarations de Grenoble. Donc, historiquement, c'est la première fois que quelqu'un qui chevauchait l'hypothèse véhiculaire avait le dessus par rapport à ceux qui traitaient ça avec dérision. Hein. Bon. Après, bah, ça fait un scandale inimaginable. Moi, je me rappelle, je voyais pas tout, parce que comme j'étais allongé sur mon brancard, je pas tellement pesé. Et mon copain Vito m'a dit, tu sais, ça devient très houleux. La salle est partagée en deux. Il y en a qui disent qu'on a raison de faire ça, d'autres qui disent qu'on n'aurait pas dû nous laisser parler. Mais il me dit, j'ai l'impression qu'on aurait été au Moyen-Âge. Il y a longtemps qu'on aurait été dans la cour, accroché sur des croix, en train de brûler. Hein. Et c'est là que j'ai réalisé que... Il y avait une agressivité, mais de la communauté scientifique, d'une partie de la communauté scientifique, absolument incroyable. On n'a pas compris, quoi, parce que au début, nous, quand on s'est intéressé à ça, bon, c'était quand même pas tout jeune, mais on a trouvé ça amusant, quoi. On s'est dit, c'est rigolo, peut-être que les extraterrestres viennent nous voir, peut-être que ces machines, on va les comprendre, etc. Et on n'a pas compris cette agressivité, mais mortelle. Je veux dire que, dans l'hangar de Schatzmann, on voyait que si on aurait été au Moyen-Âge, c'était Bernard Dogui, quoi. Hein. On se serait retrouvé accroché à des croix et brûlé, quoi. Il fallait nous brûler, quoi.
Et l'Union rationaliste porte aussi sa part de responsabilité dans le retard accumulé par la France.
Oui, mais je veux dire que, après, quand j'ai écrit Enquête sur les ovnis, j'ai essayé de comprendre pourquoi les scientifiques, et même en général, des tas de gens, avaient une réaction aussi agressive et violente contre l'idée que ça puisse être extraterrestre. Et j'ai trouvé que c'était une réaction de nature socio-immunologique. Une réaction immunologique, qu'est-ce que fait un être humain ou un être vivant, ben, il a le soi et le non-soi. Hein. Et nous, notre système immunitaire passe son temps à demander leurs papiers à des bactéries, à des trucs qui se baladent. Par exemple, nous avons une faune bactérienne à l'intérieur de l'intestin. Bon, c'est la bonne. À ce moment-là, les lymphocytes se baladent en disant « Vous avez vos papiers ? Oui, oui, moi je suis un travailleur immigré, je travaille, j'aide Monsieur Petit à digérer. » Bon, d'accord, continuez. Ça va, ça va. Et puis, de temps en temps, on tombe sur une bactérie qui n'a pas sa place et craque, on la zigouille, quoi. Donc, la réaction immunitaire, ça consiste à éliminer ce qui ne fait pas partie d'un système vivant. Eh bien, une société, ça fonctionne de la même façon. Une religion, ça fonctionne de la même façon. Il y a un type que j'aimais bien qui est mort, qui s'appelait Edgar Morin, et lui, à l'époque, ça l'avait pas mal intéressé, et il comparait ça à l'attitude du Parti communiste français juste à l'après-guerre. Le PCF, eh bien, quand on avait des informations en provenance de Russie qui faisaient état de camps de concentration, de choses comme ça, eh bien, c'était faux. C'était faux parce que ça déstabilisait la vision idyllique que les communistes français avaient du système. Donc, c'était forcément des mensonges inventés par la presse bourgeoise. Alors, effectivement, vous avez perçu une chose, c'est que, ça je l'ai écrit aussi dans l'enquête sur les ovnis, c'est que une pensée, c'est un système organisé de croyances. Et vous avez le vôtre, j'ai le mien. On ne peut pas penser sans avoir des croyances. On croit des choses et puis on les fait fonctionner ensemble. Donc on est capable, avec ce système organisé de croyances, de recevoir ou de ne pas recevoir des informations. Et lorsque ça déstabilise...
Il y a aussi l'absence de pensée avec le rire niais de celui qui croit savoir et qui dénigre alors qu'il n'a rien étudié.
Oui, mais surtout, j'ai appelé ça la cosmotrouille, c'est aussi la peur de ce l'inconnu, quoi. Hein. Je vais citer une anecdote qui est, je trouve, extrêmement révélatrice. J'étais un jour dans le bureau du rédacteur en chef de Pour la Science. Et à l'époque, on discutait dans ce bureau, et il me dit, je vais t'expliquer pourquoi le sujet OVNI ne m'intéresse pas. Bon, alors explique-moi ça. Et à ce moment-là, il me dit, il y a des années, j'étais dans un club d'échecs. Et je jouais aux échecs, j'aimais beaucoup ça, j'étais assez calé, j'étais classé, troisième série. Et puis un jour, arrive un maître aux échecs, polonais, et ce type commence à donner des cours au tableau sur les positions, les combinaisons, les choses de ce genre. Et puis moi, je lui ai dit, mais vous jouez pas avec nous? Oh non, non. Enfin, il se défilait. Quoi. Et puis, un jour, et lui, je l'ai coincé entre midi et deux heures, il était en train de lire son journal dans un café. Vous savez, dans les clubs d'échecs, à côté, il y a des cafés, il y a des échiquiers, les gens font des petites parties blitz avec des pendules et tout ça. Et lui, il a pris son maître aux échecs et il a dit, allez, on se fait une petite partie ou deux. Et il a fait une partie, deux parties, trois parties, à chaque fois, il s'est rétamé complètement. Et il a eu cette phrase, depuis, j'ai plus jamais joué aux échecs. Et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de commentaire. Alors, vous transposez. Ça veut dire, moi, je suis rédacteur en chef d'une revue scientifique, qui est Pour la Science. Ça me permet d'être connu, ça me permet d'avoir un certain pouvoir sur les scientifiques, etc. Tout d'un coup, arrive l'extraterrestre, qui sort de sa soucoupe, et qui dit, ah, c'est vous qui éditez ce petit torchon plein de conneries. Alors, je ne sais plus rien. Et le scientifique, lui, il est accroché à son savoir. Pour pouvoir envisager que les ovnis existent, il faut envisager qu'un jour, on puisse tout d'un coup être complètement ignorant.
On ne sait pas grand-chose.
Rencontrer des gens qui nous disent la façon dont vous concevez l'atome, dont vous concevez les ondes, mais c'est complètement faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, prenez vos crayons, retournez à l'école. Il y a des gens qui supporteraient, il y a des gens qui soient, je pense à un type comme Feynman, c'est un type fantastique. Bon, lui, on lui aurait dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, c'est la connerie, repartez à zéro, il aurait dit formidable. S'il avait gardé cette espèce de jeunesse de caractère. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui serait catastrophé à l'idée que tout le pouvoir, savoir, 4 millions qu'ils ont accumulé, tout d'un coup serait remis en cause. Et ça les rend agressifs à un point qu'on ne peut pas imaginer.
Jean-Pierre Petit, on va cesser de se lamenter sur cet esprit misérable franco-français.
Oui.
Et je vais vous proposer un jeu. On va passer à une anecdote assez exemplaire qui se situe en Belgique. Le jeu consiste à lancer quelques 2-3 minutes de Marie-Thérèse Dobros nous racontant un certain voyage.
D'accord.
Et vous allez poursuivre. D'accord. Vous allez prendre la suite. Comme ça, on commence avec Marie-Thérèse et vous continuez l'histoire.
Okay. Évoquons cette vague belge d'OVNI.
Alors ça, c'est une affaire qui me tient très particulièrement à cœur. Non pas parce qu'il se trouve, j'ai beaucoup de chance à l'existence, que j'ai joué un rôle important, mais c'est parce que c'est sans doute l'affaire la plus importante de l'ufologie. Alors, on rappelle très, très brièvement les faits. À partir de 89, il y a une vague d'ovnis ahurissante sur la Belgique, et il y a des milliers et des milliers de témoignages qui se multiplient, qui ne sont pas faits par des simples témoins, qui sont faits aussi bien par des gendarmes, etc. On voit des triangles qui surveillent le ciel. Et j'apprends par la presse que 15 jours avant Pâques, c'était donc en 90, donc ça devait être au début du mois de mars 90, l'armée belge décide de faire une gigantesque chasse à l'OVNI. C'est quand même sidérant. C'est-à-dire que l'armée met à la disposition d'une petite association ufologique belge qui s'appelle la SOBEPS, une petite association qui travaille quand même très sérieusement et très intelligemment, mais met à leur disposition un bombardier avec un matos très sophistiqué de caméras infrarouges, etc., et fait un gigantesque appel à témoins pour tout le territoire. Et au retour de ce week-end pascal de chasse à l'OVNI, résultat, niette, bredouille. L'OVNI n'était pas au rendez-vous. Tout ça, je trouve ça excessivement bizarre. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Bon, ben, les Belges, très bien. Et puis, je reçois un coup de fil de mon ami Jean-Pierre Petit, qui me dit, écoutez, Marie-Thérèse, il se passe quand même des choses bizarres en Belgique. Vous devriez essayer d'aller voir ce qui se passe auprès de l'armée. Je dis, vous savez, l'armée, hein, c'est la grande muette, l'armée ne dira rien. Essayez. Presque sûr que je n'aurai aucun résultat, je prends, c'était ma grande technique quand je veux toujours travailler sur des sujets dont je n'étais pas sûr, mais que je tenais à faire, je prends un congé sans solde de match, et je vais donc en Belgique. J'avais au préalable demander un entretien avec... Le...
Oui, voilà. Et on enchaîne avec Jean-Pierre Petit, le même récit, n'est-ce pas?
Comment ça s'est passé? Disons que cette histoire-là est intervenue après ce qu'on a appelé l'affaire des F-16. Les F-16, ce sont des chasseurs bisoniques américains et qui équipent en particulier l'armée belge. Et on savait par une dépêche de presse que l'armée belge avait joué au chat et à la souris avec un ovni pendant, 45 minutes au sud de Bruxelles. Et j'ai eu des informations de la part des Belges, et j'ai dit à Marie-Thérèse de Brosse, écoutez, je crois que c'est important, je crois que c'est intéressant, on y va. Elle me dit, écoutez, je vous fais confiance, et nous voilà tous les deux qui arrivons à Bruxelles. Et là, les portes s'ouvrent, et on est reçu par le colonel de Brouwer, qui est devenu après le général de Brouwer. Et ma foi, il se trouve que j'ai été officier dans l'armée de l'air, que j'ai un petit peu piloté, que j'ai été aussi radariste. J'ai dirigé des manœuvres d'interception radar. Donc c'est un langage que je connais assez bien. Ce qui fait que lorsque nous avons parlé avec de Brouwer, il s'est trouvé non pas face à un journaliste qui connaît rien, mais il y avait aussi un ingénieur. Moi j'ai fait l'école spéciale aéronautique, j'étais pilote, donc il s'est trouvé face à un type pour lequel il y avait du répondant. Et il a eu cette phrase, il a dit, je n'ai pas le feu vert du ministre de la Défense, mais je vais vous montrer les boîtes noires des F-16.
Avec l'accent, c'est très bien.
Au sous-sol. Et lui, il dirigeait à l'époque le SOC, qui veut dire le Service des Opérations Combinées, qui était l'antenne belge de l'OTAN. C'est pas rien. Et dans son Saint-Dessin de l'OTAN, il avait magnétoscopé tout ce qui avait été enregistré sur
les radars.
Sur les radars de bord des F-16. Alors, on était trois, il y avait Marie-Thérèse de Brosse, moi, et il y avait un de ses jeunes cousins qui était photographe. Et celui-là, après, je l'aurais volontiers étranglé. Heureusement que j'avais emmené un appareil photo, parce que pendant que de Brouwer nous montrait ça, je lui disais du coin des lèvres, prenez des photos, et il me répondait, ça donnera rien. C'était affreux, on avait un scoop sous les yeux, il ne comprenait pas. Quoi. Et en particulier, il avait un magnétophone, et il n'a pas enregistré ce qui est maintenant du confidentiel défense, les conversations des pilotes belges pendant l'interception. Ça, on aurait pu choper ça au passé.
Et c'était de quel genre?
C'était, d'abord, c'était de l'anglais avec l'accent flamand, mais ces gens-là s'exclamaient, ils racontaient tout ce qui leur est arrivé. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gendarmes belges ont appelé les services de Brouwer en disant, il y a un ovni qui se balade au sud de Bruxelles, il se promène comme ça. Mais à l'époque, c'était courant. Je veux dire, pendant la vague belge, il y a eu des trucs complètement hallucinants. Quoi. Il y a pratiquement l'OVNI qui arrivait tous les jours à la même heure. Quoi. Moi, malheureusement, je ne suis pas monté voir ça. Je n'ai pas eu cette chance. Et je veux dire que tous les gens qui montaient en Belgique, ils y avaient droit. Quoi. Alors, donc, le colonel de Brouwer demande une confirmation radar. Donc il y avait deux radars qui étaient celui de Zemmerzeek et celui de Glons. Et Glons, Zemmerzeek dit, oui, on a un écho, il y a bien un truc qui se balade. Et à quelle altitude, quelle vitesse? Bon, alors à ce moment-là, de Rouvain me dit, alors j'ai fait décoller la patrouille. Et il y a toujours une patrouille, que ce soit en France ou ailleurs, qui 24 ans sur 24 est prête à décoller pour un intrus. Ça peut être n'importe quoi, quoi. Ça peut être un terroriste qui peut lâcher une bombe sur la tour Eiffel, quoi. Bon, tout de suite, il faut pouvoir décoller. Donc les deux pilotes belges décollent, et dans cette patrouille, il y en a un qui pilote et qui regarde à l'extérieur, et l'autre qui s'occupe de gérer les transmissions avec la base, avec les radars et tout ça. Donc ce sont ces conversations qu'on entendait entre les deux pilotes et tout ça. Et lorsqu'ils font ces vols-là, ils ne volent pas à 300 à l'heure. Hein, ils déboulent à 700-800 km/h sur leur cible. Ils sont subsonites parce qu'ils ne volent pas très très haut. Il ne s'agit pas de casser les carreaux de toute la banlieue belge. Et dans cette chasse de nuit, on ne voit rien. D'abord parce que c'était une nuit sans lune, et ensuite aussi parce que vous savez peut-être que les Belges éclairent toutes leurs rues 24/24. Quand on voit une carte du monde
satellite,
où il y a eu des planisphères comme ça qui ont été montrés, les deux endroits les plus lumineux du monde, enfin, les quelques endroits, c'est le Koweït à cause des puits de pétrole qui brûlent, il y a le Japon parce qu'il y a des pêcheurs qui pêchent la nuit au Lamparo, et c'est aussi très brillant, et puis il y a une énorme tache brillante, c'est la Belgique. La Belgique qui bouffe une électricité pas croyable pour s'éclairer. Donc tout est éclairé, ce qui fait que un chasseur de nuit qui se balade au-dessus de la Belgique à cause de l'éclairage qui vient du sol, il verrait strictement rien. Donc il regarde exclusivement son radar. Alors sur son radar, un radar de F-16, c'est grand comme un petit écran de Macintosh, pour ceux qui ont connu ces ordinateurs-là, qui maintenant appartiennent presque à la préhistoire.
Du temps du SE, oui.
Ah, bah, oui. Donc ça fait combien? Ça fait 17 cm sur 28 ou 25, un petit écran de Mac. Et sur cet écran de Mac, eh bien, on affiche un petit peu ce qu'on veut. D'abord, on a quelque chose qui figure l'horizon artificiel. Pour les gens qui ont été un peu pilotes, ben, ils savent que ça représente un truc qui ressemble un peu à un avion, et on sait si on est en virage, en montée, en descente, etc. Voilà. Il y a aussi deux petits curseurs qui indiquent la direction dans laquelle pointe le radar. Et lorsque les pilotes volent comme ça au-dessus d'une région, dans le temps, quand on avait un radar, il y en a eu pendant la guerre de 1945, hein, des radars. Il y a eu des chasseurs de nuit, hein, il y a des chasseurs de nuit anglais, des chasseurs de nuit allemands, et le type sur son radar, il ramassait tout. Donc il ramassait les échos du sol, il fallait qu'il arrive à voir là-dedans un avion, qu'il arrive à le déceler. Or, si ça marchait comme ça, sur l'écran radar, on verrait, par exemple, surtout en basse altitude, toutes les voitures qui rouleraient. Donc par conséquent, tout ce qui est ramassé par le radar de l'avion est envoyé sur un ordinateur qui traite toutes les images, qui calcule les effets Doppler pour tous les objets, et on peut mettre un seuil. Par exemple, on peut dire que on n'a pas envie de voir tout ce qui va à moins de 200 km/h. Si on met toutes les vitesses, crac, on voit toutes les bagnoles et l'autoroute. Si on met le seuil à 200 km/h, alors on ne voit pas les voitures. Donc, autrement dit, le type avait mis son écratage et le radar donnait un écran vide. Et tout d'un coup, on voit apparaître un petit objet, et comme maintenant c'est sans doute plus rapide, mais à l'époque c'était en 90, les radars mettaient, l'ordinateur mettait un certain temps à calculer, et bien on avait une image toutes les deux dixièmes de seconde, pop, 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 et cette image était un petit carré, et le programme d'ordinateur le faisait pâlir, ce qui fait que ça donnait comme une sorte de petite queue de comète. On voyait une tache, et puis après une autre tache, et puis une autre petite tache. Et à ce moment-là, le pilote voit un écho qui se déplace et qui a une vitesse seule supérieure à 200 km/h. Bon. Alors à ce moment-là, il dispose d'un joystick. Il a son manche à balai dans la main droite, et puis dans la main gauche, il prend un autre manche, un joystick, exactement comme pour les jeux d'ordinateur. Et ce joystick déplace le curseur, on voyait très bien sur le film, et il amène le curseur sur l'objet qu'il veut sélectionner, parce que ça peut par exemple être plusieurs objets, mais celui-là il veut vraiment l'acquérir, on appelle ça une acquisition. Et après, lorsqu'il a mis le curseur sur l'objet, il appuie sur un bouton, et à ce moment-là le radar est accroché sur la cible. Et lorsque les 16 vols, avant qu'on ait fait cette manœuvre, le radar est dirigé dans l'axe de vol de l'avion. Et à ce moment-là, dès que l'accrochage est fait, le radar regarde dans la direction de l'appareil. Et on voit les curseurs qui se déplacent et qui suivent, le radar suit l'appareil. Et il peut le suivre, disons, jusqu'à 45 degrés à droite, 47 degrés à gauche, en haut et en bas. Il a un certain débattement, quoi. Et ensuite,
les paramètres de la cible sont enregistrés dans l'ordinateur, mais le pilote a sélectionné un petit déroulant avec quelques données, il ne va pas toutes les mettre, sinon il ne verrait plus rien, ce qui fait que sous la cible qui change de forme, la cible au départ, l'objet qu'on voit c'est un carré, et quand on l'a accroché, ça devient un losange. Donc le gars a ce petit losange qui se balade, et en dessous on voit apparaître la vitesse qu'il a par rapport au sol, sur l'attitude, enfin... Et puis il y a aussi un chiffre qui est important pour un chasseur, c'est la surface équivalente radar, c'est-à-dire la quantité d'ondes radar qui sont envoyées. Parce que si vous poursuivez une cible, un avion la nuit, s'il veut vous échapper, il va tenter un virage. Et s'il tente un virage, avant même que vous n'ayez vu son image déplacée sur l'écran, eh bien, sa surface équivalente aura changé. C'est pour ça que les chasseurs de nuit sont équipés justement pour pouvoir déceler par la variation de ces chiffres, une éventuelle modification de l'attitude de l'appareil. Donc, le pilote de SL, les deux pilotes de SL se rapprochent et ils tombent sur un objet qui se balade, je ne sais pas, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, mais pas très haut, à une vitesse, je crois que c'était 280 km/h, vitesse sol, pas par rapport au SL. Donc, le F-16 arrive gaillardement à 700 km/h, il lui déboule dessus. Et à ce moment-là, lorsqu'il est parmi les chiffres qui sont indiqués aussi sur l'écran, j'ai oublié, il y a aussi la distance. Chez les pilotes, c'est pas en kilomètres, c'est en nautiques. Et je me rappelle que les chiffres, c'est de l'ordre de 4 nautiques, ça fait 7 kilomètres. Donc l'appareil est à 7 kilomètres de cet objet non identifié, et vous imaginez, vous n'avez qu'à faire le calcul, il ne met pas longtemps à lui arriver dessus. Donc il y a l'accrochage de la cible, la mesure des paramètres, et tout de suite les deux F-16 lui font dessus. Et dès qu'ils arrivent à 2 km de l'objet, l'objet plonge vers le sol, et on voit, ça m'a vachement frappé, sur les chiffres qui sont en dessous, la vitesse seule qui monte à 2800 km/h. Bon, c'est indiqué en nœud, mais c'est quand même, quand vous faites le calcul, c'est, donc l'objet en, je sais pas, 2-3 secondes, passe, même moins que ça, passe de 280 km/h à 2800. Et il plonge à 45 degrés vers le plancher d'élevage belge. Alors, le pilote de F-16, on le voit très bien sur son horizon artificiel. Vous savez, quand un pilote veut poursuivre quelque chose qui est en bas, il bascule, il se met pratiquement sur le haut. Et le pilote a cette réaction de chasseur pour poursuivre sa proie. Et puis, on les entend d'ailleurs, on les entendait au micro dire, arrête de déconner, on est à 1000 mètres seul, on va se payer le seul. Donc, tout de suite, ils ont remis leur appareil en ligne de vol. Et ce système radar permet de suivre un écho, mais au-dessus de, mettons, 200 mètres d'altitude. Quand l'objet descend en dessous de 200 ou 300 mètres, le radar n'est plus capable de discerner par rapport au sol. Donc le F-16 perd l'écho. Et à ce moment-là, le pilote ou le radariste dit, on l'a perdu. Bon, alors à ce moment-là, le chef contrôleur des opérations nous dit, écoutez, faites un cercle et revenez. Alors, ils font un cercle, ils reviennent. Et dès qu'ils entament le cercle, il y a les gendarmes qui disent, il est revenu. Et ça a duré, je ne sais pas si c'est pas 6 ou 7 fois. Autrement dit, à chaque fois, moi j'ai vu la mission entière, il y a les F-16 qui déboulent, ils font l'accrochage de la cible avec l'histoire du joystick et tout ça, ils arrivent près de l'objet, l'objet fiche le camp, etc. Bon. Alors, Brouwer nous a montré cette histoire-là, et j'ai réussi, parce que j'avais un appareil autour du cou, à prendre 2 photos, et c'est mes photos qui sont passées dans le match. Parce que si j'avais pas eu cet appareil, on n'aurait rien eu. Vous savez, c'est comme dans les Dalton, en sortant, j'aurais étranglé le cousin de Brouwer. Parce qu'il a dit, oh, je savais pas. Et il n'avait pas enregistré les voix non plus. Mais heureusement, on avait 2 photos. Donc, avec ces photos, on a pu se débrouiller. Hein. Et on est sorti de cette interview. On est allé à l'hôtel. Et puis, j'ai aidé Marie-Thérèse de Brosse à rédiger l'article donc qui est passé dans Match, en double page.
Oui, alors les militaires belges ont été coopérants, eux.
Alors, les militaires belges ont été coopérants pendant un certain temps. Parce que, disons que la désinformation ne les avait pas touchés. Et De Brouwer a joué très gentiment son rôle. Quoi. Hein, bon. Ensuite, moi, j'ai voulu mobiliser la télé, TF1, là-dessus. J'ai J'ai donc appelé TF1 en disant, il y a un truc extraordinaire, il faut que vous montiez, nom de Dieu, pour faire quelque chose là-dessus. Et la réaction des journalistes, ça a été, oh, ben c'est un truc vidéo, oh, ben ça donnera rien à l'écran, etc. Puis je dis, mais si, vous vous rendez pas compte, c'est un document exceptionnel. Oh, oh, ils ont été très mous. Et puis ils m'ont dit, de toute façon, qu'est-ce qui va nous commenter ces images? Je dis, moi, pour ça, faites-moi monter. Oh, on n'a pas de budget pour ça. Enfin, vous voyez, c'est pas le prix plus misère. Hein. Bon, finalement, il y a eu quand même, à la suite de l'article dans Match, une certaine agitation, et le ministre de la Défense a dit à De Brouwer, écoutez, vous donnez une conférence de presse, et puis après on ferme boutique, parce que sans ça, ils vont nous emmerder. Donc il y a eu une conférence de presse, De Brouwer a montré sur un écran ces trucs-là, ça a été filmé par une chaîne de télé, et c'était FR3 qui avait racheté les images. Et finalement, pour vous donner un petit peu... une idée de caractère complètement ubuesque de cette histoire, FR3 diffuse un petit bout de reportage là-dessus. À ce moment-là, TF1 comprend que c'est important. Et moi, qui habite dans le milieu de la France, je vois arriver une équipe de FR3 Marseille qui viennent pour me filmer en disant, on vient vous filmer pour vous commenter les images. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais est-ce que vous les avez? Ils m'ont dit, non, pas encore. Elles seront à Paris, on les aura par faisceau hertzien, juste avant le journal de 20h. J'ai dit, mais comment voulez-vous que je commente des images que je n'ai pas? Ben, je ne sais pas, on nous a demandé de venir. Alors, j'ai fait une chose, c'est que j'ai commenté les images de mémoire. J'ai dit, écoutez, je vais vous faire un certain nombre de phrases, et puis peut-être que vous arriverez à faire un montage. Alors j'ai dit, par exemple, ben là vous avez un écran, et là vous voyez ceci, vous voyez cela, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis là vous voyez, juste en dessous du petit losange, vous avez un chiffre qui indique la vitesse, et l'appareil de vol aux environs de temps. Et là tout d'un coup, hop, vous le voyez qui file vers la droite, et à ce moment-là, et ils avaient transmis à Paris, par faisceau hertzien, mon enregistrement. TF1 s'est débrouillé pour faire un montage qui fait qu'au 20h, on a eu droit à ça. Mais vous vous rendez compte de la grandeur. Ça aurait été plus simple qu'on aille carrément à Bruxelles pour faire ça. Enfin, quand on dit ça aux journalistes, il faut qu'ils vous croient pas. Alors, la mayonnaise a commencé à monter un petit peu, et à ce moment-là, la désinformation a joué. Et la désinformation, on utilise des gens, soit parce qu'on les paye, soit parce qu'ils n'aiment pas le sujet. Vous prenez une revue comme Science et Vie, ça fait 40 ans qu'elle s'acharne contre la mémoire de l'eau, contre les ovnis, il y a des choses comme ça, ça passe pas. Et Science et Vie a titré très peu de temps après une couverture sur laquelle on voyait le F-117A. Il y avait un titre énorme, c'était « L'OVNI, c'est lui ». Et rappelez-vous, le nom du journaliste qui a fait cet article à l'époque, c'est Bernard Tonnel. C'était assez jeune à l'époque. Donc c'était « L'OVNI, c'est lui ». Et les Américains...
Donc, vous voulez dire, Jean-Pierre Petit, qu'à l'époque, on s'est servi de Bernard Toinel pour désinformer, quitte à balancer le 117, mais...
Voilà. Et le truc, c'est que les Américains ont compris que cette affaire belge commençait à faire bouillir le problème. Donc, ils ont balancé le F-117. Ils n'avaient aucune raison de le faire. Ils l'ont montré sur leur base. C'est extraordinaire, quoi. Et Science et Vie a montré ce F-117, qui, évidemment... est vaguement triangulaire quand on regarde de face, puis quand il se pose, ben, il a un phare sur la jambe de train avant et deux phares sur le côté, et comme vous savez que l'objet belge, il avait trois lampes, hein, trois lumières, à ce moment-là, c'était très simple, c'était l'objet belge. Alors évidemment, les Belges étaient foudrages, parce que il y a des gens qui avaient été survolés par un truc comme ça, et ça faisait aucun bruit. Il y avait même des gendarmes belges que j'ai rencontrés qui s'étaient arrêtés sur le bord de la route, et ils comprenaient pas, parce qu'il y avait trois lampadaires qui éclairait un terrain de foot, quoi, en pleine campagne. Il se disait, mais on n'a jamais vu de terrain de football à ce moment-là. Et en fait, l'objet était complètement immobile, et il éclaire le sol avec ses trois lampes. Ils sont sortis avec leur voiture, ils n'ont pas compris. Après, ils ont vu le truc foutre le gant.
Pourquoi est-ce que ça a été classifié, finalement,
ce sujet? Il y a toute une histoire là-dessus. Hein. Bon, je crois qu'on peut un petit peu développer là-dessus. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à raconter. Bon, ça constituera des archives. Les gens qui auront cette émission comme ça sur CD-ROM, ben, ils pourront l'écouter. C'est vrai que c'est des choses qui maintenant ont été oubliées, quoi. Donc, qu'est-ce que racontait Science et Vie? Ben, c'est très simple. C'était le F-117, quoi. L'avion furtif. Et je vais vous dire la chose suivante. C'est que, non plutôt, lorsque j'ai vu De Brouwer, chronologiquement, j'ai dû faire un peu une inversion. L'article sur le F-117 est déjà paru trois jours avant. Et De Brouwer était furieux parce que il m'a dit, j'ai fait immédiatement un téléx à Washington en disant, parce que c'est vrai, hein,
parce que comme lui, il est quand même chef de l'OTAN belge pour l'aviation, que les Américains envoient un avion furtif au-dessus de la Belgique sans le prévenir, c'était pas possible. Hein? Ça, c'était vraiment de prendre pour un con, quoi. Je veux dire que si les Américains ont décidé d'essayer un prototype ultra secret, ils préviennent au moins le chef de l'OTAN, quoi. C'est pas possible autrement. Je signale au passage que quand les F-117 avaient fait leur mission, j'avais demandé à Dombrouwer, est-ce qu'ils avaient armé leur Sidewinder, quoi, leur fusée. Et Dombrouwer m'a dit pas du tout, je leur ai surtout dit pas le faire, on savait pas du tout à quoi on avait affaire. C'est vrai que tirer sur un ovni, bon, ça peut vraiment provoquer un incident diplomatique à l'échelle internationale. Planétaire. Bon. Enfin, revenons à cette histoire de F-117. Dombrouwer m'a montré un fax qu'il avait reçu, un Telex. Il m'a dit, je peux pas vous le donner, je peux vous en donner copie. Mais moi, je l'ai lu de mes yeux. C'était un truc qui émanait du Pentagone. Et la réponse laconique était, votre ovni n'est pas notre avion furtif. C'est génial, quoi. C'était très, très concis, quoi. Your UFO is not our stick. Voilà, tac. Bon. Comme ça, ils étaient informés. Ensuite, ça a été information contre les informations. Peu de temps après, je suis passé chez Pearl Harbor. Et à ce moment-là, j'étais interviewé. Je ne sais pas s'il y avait la sortie de mon bouquin à l'époque. Non. J'ai sorti depuis longtemps. Donc, je suis passé chez lui. Et j'avais une caisse en carton. Et je dis à Pearl, est-ce que vous voulez un scoop? Je vais vous montrer l'avion furtif. Et à partir d'une ou deux photos qu'on avait, et puis d'un croquis qui avait été fait par une personne, j'avais un logiciel de conception assistée par ordinateur que j'avais fabriqué moi-même à l'époque, et j'avais reconstitué la forme du S-117A, et j'avais compris comment marchait cette cuillère en bec de canard, j'avais compris comment marchaient ses entraîneurs, etc. Et j'avais fait une maquette, et finalement, lorsqu'on a eu vraiment les plans de cet appareil, je m'étais très peu trompé, quoi, au point de vue de la flèche. Et tout ça. Donc, Poivre était très amusé, il a fait signe à ses caméramans en disant « Faites un gros plan là-dessus ». Donc, on a montré le F-117 caméra. J'ai pas gardé d'archives télé de ce truc-là. Bon, il y a peut-être des gens qui se souviennent. Et en particulier, on avait des chiffres là-dessus. On savait, par exemple, que le F-117, je crois qu'il a une vitesse d'atterrissage de quelque chose comme 280 km/h. C'est pas difficile, le F-117A, je sais pas s'il a pas 17 tonnes de poussée, c'est un fer à repasser au volant. Il faut voir comment il est fichu. Son aérodynamique est très problématique, et s'il avait pas des moteurs hyper puissants derrière, il volerait pas, quoi. C'est vraiment... Après, ce qui vole plus mal, ça s'appelle un fer à repasser. Donc décoller avec un fer à F-117, il faut vraiment y aller plein pot, et puis atterrir, c'est pareil. Parce que je crois pas qu'il est hyper sustentateur, il n'a pas de bord d'attaque basculant, enfin, il y a des tas de trucs qui permettent de voler en basse vitesse. Donc il n'est pas bon du tout en basse vitesse, et il était écrit dans Aviation Week and Space Technology que bien qu'ayant à l'arrière une tuyère à très fort taux de dilution, il est moins bruyant qu'un appareil normal, ce qui fait qu'avec ses, je crois que c'est 17 tonnes de poussée, il n'est pas plus bruyant qu'un petit biréacteur d'affaires, comme un Falcon, par exemple. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un Falcon vous passer au-dessus de la tête à 50 mètres, ça fait un sacré boucan. Or, les Belges, ils n'avaient rien entendu. Hein. Donc, premièrement, ça ne peut pas faire du surplace. Hein. Comme j'ai dit à l'émission de Poivre, avec les vitesses qu'ont constaté les observateurs belges, le F-117 a à peu près la portance d'une boule de pétanque, quoi. Hein. Et ensuite, bah, au point de vue bruit, c'est pas possible que... Donc, Science et Vie a prêté des vertus à cet appareil qu'il n'avait pas. Hein. Donc, ça a été, à cette époque-là, je sais pas si ça se jouait en semaine, en jour ou en mois, mais il y avait une information, et puis moi je suis pas le contre-pied, etc., etc. Donc, cette histoire du F-117, ça a été contré par le fait que j'ai déclaré à la télé que cet article était une connerie complète et que cet appareil américain ne pouvait pas présenter les performances en question.
Mais
et
alors pourquoi cet acharnement à ne pas vouloir reconnaître?
Ah oui, absolument, absolument. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé une chose étonnante. Il y a eu l'affaire de Cahors-Saint-Nicolas. Et l'affaire de Cahors-Saint-Nicolas, tout d'un coup, on voit un reportage FR3, avec une trace de 18 mètres de diamètre dans un champ de maïs, un paysan la nuit entend une espèce de bruit sourd, et il va dans son champ de maïs, et vous trouverez les photos dans mon site internet. Il y a un type qui m'a procuré des documents là-dessus, qu'on avait un peu perdu, donc on a pu retrouver. Donc une trace 18 mètres de diamètre, et puis avec le sol labouré jusqu'à 1,50 m ou 1,80 m de profondeur, quoi. Un truc très très important. Bon. Et petite musique, musique avec le paysan qui dit « Oh, à mon avis, ça doit être un ovni. » Et à ce moment-là, mon téléphone n'arrête pas de sonner. « Monsieur Petit, vous devriez venir, on a le coup du siècle. » C'est vraiment la soupe au chou, quoi. L'ovni s'est posé. Je dis « Mais est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ?»« Non, on n'a rien vu, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. » Et on s'est quand même méfié, parce que dans ces opérations de désinformation, il y a aussi le discrédit, hein. Je veux dire que tout à l'heure, je vous raconterai une histoire comme ça où je suis allé sur un plateau de télévision avec le Javan, et des gens espéraient réellement que j'allais faire prendre cette écho pour une affaire qui s'est produite le 5 novembre 90, pour laquelle il y avait beaucoup d'ufologues qui s'excitaient en disant il y a une vague d'OVNI qui a traversé la France. Et moi, c'est quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai dit écoutez, pour qu'on perde pas de temps, on va tout de suite régler le problème. Le 5 novembre, c'était une rentrée de fusée. Et les gens du CNES qui étaient là, il y avait même René Pellat qui s'était déplacé, il y avait le représentant des relations extérieures du CNES, ils espéraient tous que j'allais plaider cette cause OVNI et qu'ils allaient pouvoir me contrer. Et là, je leur ai coupé l'air sous pied dès le début de l'émission, ils n'avaient plus rien à dire. Enfin, c'est pour dire que dans ces trucs-là, c'est vraiment une guerre, c'est comme le ping-pong, quoi. Alors, on a donc cette histoire de Pierre-Saint-Nicolas, et avec Perrin de Brichaumont, on se concerte, et on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et on ne monte pas. Hein. On ne va pas dans ce truc-là. Et surtout, je vois Velasco dans la trace, en train de faire des prélèvements, en train de ramasser des échantillons de terre et tout ça. Puis je me dis, c'est curieux, il n'a pas l'air à ce qu'il fait. Ça me paraissait bizarre, cette histoire. Et on se renseigne, et très vite, parce qu'il y avait quand même des choses étonnantes, le CNES... Très vite, Velasco annonce c'est l'explosion d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Or, une bombe de la Seconde Guerre mondiale, ou une bombe en général, quand ça explose, ça ne fait pas du tout ce genre de traces. Il y avait une chose en particulier, vous le verrez sur le document qui est dans mon site, il y a une trace parfaitement circulaire qui fait 18 mètres de diamètre, et les maïs en bordure, non seulement ils sont droits, mais ils sont même penchés vers la trace. Et il n'y a pas de terre rejetée à l'extérieur. Donc c'est pas... comment dire, une explosion de bombe aurait envoyé des débris à grande distance tout autour. Les maïs auraient été couchés. Alors là, ils n'étaient pas couchés, il n'y avait pas de débris. Donc ça faisait pas du tout une explosion de bombe classique. Hein. Et à ce moment-là, on a pensé, parce que déjà à l'époque, moi c'est une chose à laquelle je commençais à m'intéresser, à une explosion souterraine, c'est-à-dire l'explosion d'un truc à une certaine profondeur. Et on s'est renseigné avec Perrin auprès de spécialistes qui nous ont dit pour faire un truc pareil, il faut mettre la charge assez profond. Alors on continue à se renseigner en disant mais les bombes, ça arrive à rentrer dans quelle profondeur de terre, hein? Et vous savez bien que pour protéger les installations, on met des sacs de sable. En général, la terre, c'est pas un très bon truc pour faire pénétrer une bombe. Alors une bombe, quand ça tombe, ça pénètre à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, mais ça dépasse pas à 3-4 mètres de profondeur. Les bombes de la Seconde Guerre mondiale, elles pénétraient pas à 15 mètres, c'est pas possible. Alors, poussant les choses, mais très rapidement, en quelques jours, hein, plus loin, on se renseigne, et Perrin avait un copain qui était historien de la Seconde Guerre mondiale, et qui dit... ça pourrait être une bombe à haute perforation dont on sait que les alliés avaient essayé de les mettre au point pour essayer d'atteindre les V2 qu'on essayait de construire dans les carrières de craie. Les alliés avaient dit, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des bombes qui descendent très très vite, qui arrivent après très profond dans le sol et qui pourraient percer une certaine épaisseur de craie pour arriver à détruire les trucs. On sait que maintenant, on a des bombes de ce genre-là pour essayer d'atteindre les installations souterraines de M. Saddam Hussein, quand c'est pas trop profond. Il y a même ce type de bombe, d'ailleurs, elle est en photo dans mon site. Vous la trouvez également. Il y a plein de choses dans mon site, c'est vraiment la Samaritaine.
Il y a un petit moment qu'on n'a pas dit, jp-petit.com.
Si tu veux. Alors, donc... l'historien de la Seconde Guerre mondiale s'adresse au CNES en disant c'est peut-être une de ces bombes, et comme on ne sait rien sur ces bombes-là, en tant qu'historien, moi ça m'intéresse beaucoup. Et immédiatement, la DST lui tombe dessus, le cuisine en disant mais pourquoi vous posez des questions pareilles? Ce qui me répond, bah, écoutez, je ne sais pas, moi, je suis historien, la guerre de 39-45, elle est finie depuis je ne sais pas combien, 40 ans, ça ne me paraît pas indécent de s'intéresser à une chose comme ça. Et il m'a téléphoné en me disant, mais ils m'ont cuisiné comme c'est pas possible, comme si vraiment je faisais de l'espionnage, alors que je me suis jamais intéressé aux ovnis ou quoi que ce soit, j'ai pas compris, quoi. Et avec Perrin, on a suggéré de faire un carottage pour aller prélever en profondeur des débris pour avoir la nature de l'explosif. C'est important, un truc comme ça. Et immédiatement, le site a été interdit au public et le GEPAN de l'époque, enfin, je ne sais pas si c'est déjà le CEPRA, a fait venir une entreprise, donc on a le nom d'ailleurs, c'est indiqué dans mon site, et le CNES a fait creuser jusqu'à 8 ou 9 mètres de profondeur et a tout récupéré. Alors ça, c'est pas vraiment de l'archéologie. Je veux dire que c'est curieux comme façon de procéder. Et puis, on n'a plus de nouvelles. Il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a rien eu. Simplement, comme d'habitude, Velasco a dit, des analyses sont en cours, d'ailleurs qui étaient faites par l'établissement technique central de l'armement de l'IMEI. Et puis, quand on aura quelque chose, on vous préviendra. Bon. Et justement, par exemple, une des tâches de l'association Don Quichotte, ce serait, à travers un cours juridique, de demander au CNES ce rapport. Quelles sont les conclusions de l'affaire Kalochna-Nicolas? Parce que il y a un mystère là-dedans. Lorsque j'ai questionné Velasco en 95, je crois, sur un plateau de télévision, juste avant une émission, il était avec le pilote Grollet. C'est dommage qu'il n'ait pas accepté de participer à cette émission de radio, parce qu'on aurait pu dialoguer, là. C'est quand même, c'est embêtant de parler de quelqu'un quand il n'est pas là, mais malheureusement, il n'a pas l'air tellement soucieux de dialoguer avec moi, qu'il pourrait me contredire. Et moi, je lui ai dit, mais qu'en était-il de cette affaire de Kalochna-Nicolas? Et il avait complètement oublié. Et récemment, il a encore été interviewé par une journaliste. Et comme je l'avais prévenu, elle a demandé à Velasco qu'est-ce que c'était l'affaire de Kalochna-Nicolas. Et il prend l'air du gars qui vraiment se souvient de rien. Et à ce moment-là, elle lui colle les photos sous le nez. Il lui a fait la réponse suivante. C'était un impact de foudre. Or, un impact de foudre qui fait une trace de 18 mètres de diamètre et d'un mètre 50 de profondeur, je ne sais pas, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma lettre ouverte. J'ai dit à Velasco, est-il vrai que vous avez répondu à cette dame cette chose? Est-il vrai que... Et si c'est vrai, est-il vrai qu'un impact de foudre peut faire des dégâts pareils? Y a-t-il... Il faut toujours présenter les choses sous forme de questions, parce que finalement, je dis une chose, il peut très bien dire que c'est pas vrai. Là, je lui pose la question. Est-il vrai que, à Kalochna-Nicolas...
Malheureusement, on n'a pas sa réponse.
Malheureusement, on n'a pas de réponse, mais on la souhaite à travers la lettre, et la lettre demande que soient communiquées les conclusions finales sur ce qui soit Kalochna-Nicolas. Parce que si on a créé en France, avec l'argent du contribuable, un service qui était d'abord le GEPRAN, puis le CEPRA, qui fait des enquêtes, et que ces enquêtes, on ne sait jamais de quoi y retourne, on ne peut même pas poser de questions. Alors à quoi ça sert? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette histoire-là ne ressemble pas du tout à un impact de bombe. Moi, je pense que c'est une explosion souterraine, mais la question, c'est qu'est-ce qui l'a produite?
Du moins, sa réponse est, je l'ai sous les yeux, ayant été mis en cause par Jean-Pierre Petit, parenthèse, pétition, polémique, etc., n'a pas à répondre dans le cadre de sa participation au CNES.
Ah bon? Il n'a pas à répondre dans le cadre de sa participation au CNES? Bon, ben ça risque d'être compliqué, quoi. Enfin bon, c'est pour ça qu'un homme tout seul ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut 500 personnes dans une association, il faut un juriste, il faut des gens qui...
Alors pourquoi ça dérange tellement? Nous avons ici Jean-Pierre Petit, convaincu évidemment de la réalité du phénomène, si tout le monde ne l'avait pas compris déjà. Il ne s'agit pas d'objets volants terrestres. Pourquoi est-ce que ça dérange autant les rédacteurs des magazines que vous avez cités? Pourquoi ça dérange les personnes qui sont là, a priori objectives, pour analyser les données qui leur sont transmises? Pourquoi est-ce qu'il y a encore un tel mur du silence?
Et, de plaisir, écoutez, dans cette histoire de Kalochna-Nicolas, c'est beaucoup plus inquiétant que ça. Qu'est-ce qui a fait ce cratère? Est-ce que c'est vraiment une bombe ou est-ce que c'est autre chose? C'est pas forcément un ovni, il y a une troisième hypothèse. Qui est que ça puisse être une manipulation des services secrets. On ne saura jamais. Hein. Je donne un exemple. Lorsque j'étais en Belgique, pour la sortie de mon bouquin, dans son édition belge, mon attaché de presse m'a dit, il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup vous rencontrer. Ah bon. À ce moment-là, je vois arriver un type de 30-35 ans qui me dit, moi, je travaille pour les gens qui font des manifestations de concerts de rock et choses comme ça. Donc, je m'occupe des faits spéciaux. Et il y a un type qui est venu me trouver, il y a des gens, que je n'ai pas pu trouver vraiment l'identité, et qui était intéressé pour que je développe un ballon. un ballon, donc, 1 mètre de diamètre, 4-5 mètres de long, gonflé non pas seulement à l'hélium, sinon il aurait une portance trop faible, mais avec un mélange d'air et d'hélium, en vinyle, transparent. Et ce ballon portant un équipage, et en particulier, au lieu de porter un moteur, il avait 24 moteurs électriques, avec 10 hélices en balsa. Donc, autrement dit, vous avez compris ce que c'était, parce que maintenant, on le sait, c'est un drone. Il y a des drones comme ça qui sont utilisés dans l'armée.
Oui, c'est silencieux.
C'est, vous voyez, il y a une chose, c'est que, c'est silencieux, des petits moteurs électriques comme ça, on n'entend rien. Je veux dire que le gars disait que quand c'est en vinyle et que ça se bat dans le ciel, comme c'est transparent, on les voit pratiquement pas. Ensuite, les structures, c'est fait avec des tubes d'alu qui ont le diamètre d'une allumette. Donc, au point de vue éco-radar, il n'y a rien. C'est transparent au radar. La caméra de télévision est grosse comme le petit doigt. Les écus, c'est une barrette d'écus comme des piles qui font un centimètre de diamètre. Donc, furtivité. Alors, le type des effets spéciaux comprend pas pourquoi on veut fabriquer pour faire des concerts de rock un ballon qui, en plus, soit invisible au radar. Ils ne comprenaient pas qu'on... Et en fait, ces gens-là, c'était les Américains en sous-main qui faisaient financer la construction d'un drone militaire qui existait déjà ce jeu en donnant des indications par ses plans, quoi. Alors, il a donc fabriqué plusieurs ballons de ce type. Et il dit, ces gens avaient beaucoup d'argent. Et en particulier, on les transportait dans des camions qui étaient des 15 tonnes. Il dit, c'était assez amusant parce que on avait des camions capables de transporter des charges énormes et là-dedans, on avait un truc qui était collé au plafond, quoi. Et ils ont fait des essais avec ces appareils-là en les munissant de perches au bout duquel il y avait des projecteurs halogènes.
Donc pour faire croire aux populations...
Pour reconstituer l'OVNI.
Le phénomène OVNI, oui.
Et il m'a dit, avec ce qu'on avait, ça pouvait voler à peu près à 70 km/h. Et comme on avait des moteurs orientables, télécommandés, le machin pouvait avoir des évolutions très compliquées, quoi. Et ils ont visé un village, comme ça, et le truc s'est baladé au-dessus du sol, et les gens ont décrit exactement l'OVNI belge, quoi. Ils ont dit, le truc est arrivé, il a fait ci, il a fait ça, etc. Et ils ont même poussé le luxe jusqu'à utiliser trois appareils, en les allumant et en les expédiant, de façon à faire croire à une fuite très rapide, quoi. Donc là, il y avait vraiment toute une manip, et en fait, cette manip-là, ça aurait consisté à un jour faire venir un journaliste particulièrement anti-OVNI, qui aurait monté, qui aurait été mis dans le coup, et qui aurait dit, chers téléspectateurs, l'appareil se rapproche, nous sommes peut-être à deux doigts d'avoir un contact, oui, il descend, les gens commencent à pousser des cris dans la salle, nous sommes, l'émotion nous étreint et tout ça, et puis tout à coup, apparaît dans le champ de lumière un petit bonhomme, genre les gars qui font les ronds dans les blés, avec une télécommande, et on voit le ballon qui se pose devant tout le monde, et à ce moment-là, le journaliste dit, eh bien voilà. L'histoire maintenant se dégonfle, nous sommes désolés, c'est monsieur Van der Bleck qui fabrique
cette. Et on est reparti pour 10 ans.
La vague belge.
On est reparti pour 10 ans, effectivement.
Elle en prenait un coup terrible, un truc comme ça.
Totalement décrédibilisé, oui.
Alors.
Donc des gens ont beaucoup de pognon à dépenser pour monter de fausses manips.
Ça vous donne une chose, ça vous indique ce qu'on est capable de faire pour une fausse manip. Alors, il y a une chose, c'est que quand on fait un truc comme ça, bon ben, il est certain qu'il reste le gars qui a construit les ballons. Et il avait peur de se faire flinguer. Parce qu'après, ces gens-là, on les fait disparaître. C'est grave, une histoire de ce genre. Hein. On ne peut pas laisser des traces. Et le type a eu la trouille, et c'est pour ça qu'il m'a parlé. Et quand j'ai eu cette information, je l'ai raconté aux Belges, aux gens de la SOBEP, c'est partout, qui ont dit, si jamais, imaginez par exemple qu'on monte cette opération avec les journalistes qui disent, l'OVNI se rapproche, l'OVNI se rapproche, tout d'un coup, il y a un gars qui dit, écoutez, vous me laissez faire, il prend un fusil de chasse, paf, il tire et le ballon se casse la gueule. Et le gars dit, on n'aime pas beaucoup qu'on nous prenne pour des cons. Et là, c'est les désinformeurs qui sont mal, vous comprenez? C'est comme la trace de Carlos Saint-Nicolas, si tout d'un coup on avait montré que c'est un explosif moderne, ça aurait fait un scandale incroyable.
Donc c'est quelque chose, une manip qui était sur le point d'aboutir et qui a tourné court.
Ah, les ballons, ça a tourné court. Mais ça vous donne une idée, on a grillé l'avion furtif américain dans un premier temps, comme ça marchait pas, on avait fait le truc des ballons, et puis ça continue. Alors après, vous disiez, l'affaire des F-16 est devenue confidentielle de défense, elle a été classée, secret. C'est vrai. Mais alors, il y avait un militaire belge qui était professeur de micro-ondes à l'école royale militaire belge
et qui était un type, bon, il était très enthousiaste pour nous plaire mes idées. Donc on sentait que les militaires belges n'avaient plus, ils n'étaient pas du tout sous contrôle, quoi. Ils étaient prêts à collaborer, à parler, etc. Et d'un autre côté, il y avait la rue Chancelier qui disait, l'engin, lorsqu'il a filé à 2800 km/h, c'est pas vrai, c'était un avion furtif qui donnait des faux échos pour faire croire qu'il filait à 2800 km/h. Eh bien, je peux vous garantir, j'ai le document, j'ai la thèse. Je ne me rappelle plus comment s'appelait ce colonel, mais il a mis un ingénieur militaire belge en thèse de doctorat, un peu l'équivalent d'une thèse d'ingénieur docteur, mais militaire, pour étudier toutes les données radar des F-16. Et dans la thèse, et moi j'ai l'image quelque part dans mes archives, on voit la trajectoire 3D du F-16 et la trajectoire 3D de l'OVNI. Et l'OVNI s'échappe pratiquement perpendiculairement par rapport à l'avion. Donc il ne peut pas truquer son effet Doppler. Donc ce que dit Science et Vie est faux. Donc on voit des gens comme les journalistes de Science et Vie qui mentent en permanence, qui désinforment en permanence. Alors effectivement, la question, c'est pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse toute prête à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant 25 ans, on a mis en œuvre une politique en France et dans tous les pays de désinformation absolument inimaginable.
Du coup, on a pris un retard considérable sur le plan technologique que vous dites irrattrapable.
Ah oui, complètement irrattrapable, c'est fantastique. Alors là, par exemple, il y a en 99 se situe le rapport Cometa. Bon, on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui disent, ce rapport maintenant, je rappelle qu'il est disponible. Est-ce que vous avez les coordonnées pour se le procurer, hein?
Il s'est trouvé longtemps chez Marcogi, puis il en a été supprimé, il réapparaît par-ci, par-là, sur des sites internet qui sont malheureusement français, je vois rien de tel
que de le rendre disponible.
Excusez-moi, j'aurais bien pensé de le rendre disponible sur un site internet hébergé ailleurs qu'en France pour qu'il soit là, publié une fois pour toutes et à disposition, non?
Disons que ce rapport a été diffusé par le groupe GS Press en 99. Là, il s'est vendu, je crois, à 70 000 exemplaires très rapidement.
Parce il a été entièrement monté, établi aux frais des contribuables. Donc, c'est un bien collectif. Pourquoi interdire maintenant sa publication, d'autant que sur Internet, il peut être accessible gratuitement?
Par exemple, voilà quelque chose une question qui peut être posée. Ce rapport fait 90 pages. Il a été préparé sous l'égide d'une association de loi de 1901 qui est une association privée, dont le responsable, c'est Maître Elgrin, qui est juriste.
Oui, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions non plus, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, il ne répond pas non plus aux questions. Et Elgrin, c'est là que l'association Cometa est domiciliée, et le président de l'association Cometa, c'est le général Letty. Donc, quand on voit là-dedans, il y a l'amiral Merlot, il y a Orzag, qui est ingénieur militaire de l'armement, enfin bon, c'est bourré de militaires en retraite. Mais, comme ils sont en retraite, ils sont civils. Et donc, ils ont une association de 1901 qui n'est pas un organisme militaire, mais un organisme civil. Cet organisme civil édite cette plaquette Cometa par l'intermédiaire de GS Press, et sauf contradiction immédiate, je crois savoir que l'association a touché un pourcentage non négligeable sur les ventes. Donc, elle a fait un bénéfice sur la vente de cette plaquette, qui a quand même été réalisée à 100%, avec du travail réalisé dans l'armée, dans l'Institut des hautes études de l'enseignement national et au CNES, qui sont trois trucs payés par le contribuable. Donc c'est un peu comme si il y avait un rapport sur la sécurité sociale qui était payant, et alors que la sécurité sociale, c'est le travail de gens qui sont payés par l'État.
Non, c'est clair pour tout le monde. Je comprends qu'on proteste éventuellement que l'association fasse fermer un site qui commercialiserait le rapport, mais simplement le publier.
Voilà. Et là, il y a une chose, c'est que ce rapport a été disponible pendant un temps, puis comme après, moi je sais qu'à une époque, on essayait de se le procurer, c'était pas évident, quoi. Les gens téléphonaient en disant, la personne qui est là, elle est pas là. On avait l'impression, je sais pas, j'ai entendu dire qu'il y en avait 20 exemplaires dans une cave. Enfin, je sais pas si la diffusion de ce rapport a été considérable de 99 à maintenant.
En tout cas, il est tout à fait intéressant.
Alors maintenant, on peut se le procurer, on va même donner les coordonnées de ce que je les ai. Donc pour avoir ce rapport, il faut s'adresser à GS Presse Communication,
Et ça se trouve dans son bois.
Ici les Moulineaux, c'est ça?
Hein?
Ah, ici les Moulineaux?
Oui, ici les Moulineaux. Vous pouvez donner l'adresse, là. Oui, c'est ça. GSPress Communication, 92 avenue Victor Cresson, 92 442 ici les Moulineaux CEDEX. Et le rapport est disponible contre 7,01 €. Et j'ai pu m'en assurer parce que j'ai envoyé 7,1 € et j'ai reçu 3 jours après le rapport. Donc ce rapport, il est disponible et on peut le lire. Bon. Et ce rapport, pendant un temps, comme il n'apparaissait plus, il y a des gens qui l'ont mis sur leur site et à chaque fois, ils se sont ramassés une mise en demeure extrêmement rapide de mettre les grains, disons, si vous n'enlevez pas immédiatement ce rapport dont nous avons les droits, je vous poursuis en justice. Bon.
Et, c'était à l'époque où il était indisponible, s'il est disponible maintenant.
Alors, à un moment, il a été mis en disponibilité pendant quelques semaines sur un site, et comme quelqu'un l'a appris, un type m'a dit, moi j'ai cherché avec Google, j'ai cherché comme état, j'ai trouvé, bah, il est disponible à tel endroit. Alors moi, sur ma page de nouveauté, j'ai mis, bah, le rapport comme état est disponible sur le site machin truc, etc. Et c'est là que j'ai reçu un mail de Maître Elgrin, que je reproduis dans mon site, me disant, vous avez fait une publicité pour ce site qui reproduit le rapport Cometa. Nous vous rappelons que seule la Fondation Cometa a les droits sur ce rapport, et je vous somme d'enlever immédiatement cette publicité, faute de quoi vous serez poursuivi pour complicité d'infraction à la loi sur les droits d'auteur ou tous les gens-là. Alors effectivement, j'ai obtempéré, mais j'ai trouvé cette nervosité absolument inimaginable. Mais enfin, l'essentiel, c'est que ce rapport soit disponible. 7 euros, ça fait 50 balles, quoi. Bon, 50 balles, vous avez ce rapport. Et je vous assure qu'il faut se procurer, parce que c'est un document historique, hein, et pour, à différents endroits. Et justement, là, on va peut-être amener un petit peu à en parler. Donc, dans ce texte de Cometa, on trouve 90 pages, c'est quand même pas mal, des tas de parties. Il y a, une première partie qui présente des observations de pilotes, des observations généralement, souvent d'ailleurs visuelles et doublées d'observations radar. Donc on comprend que la chose est importante, quoi. Il est précisé que ce rapport a été remis au président de la République et au Premier ministre. Et, je regarde parce que comme j'ai mis une critique dans mon site, ça me permet d'avoir des notes justement là-dessus. Hein. Bon, il y a des phrases dans le rapport Cometa, par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont acheté justement pour ça, qui l'ont en main. Alors, il faut qu'ils aillent page 36, dans la section 8.1.1.1, ligne 7. C'est une section qui est consacrée à la propulsion MHD. Et vous lisez la phrase suivante. Le fait que les objets observés de près n'aient pas laissé apparaître ou entendre de système de refroidissement peut s'expliquer tant que la durée des vols des engins ne dépasse pas quelques dizaines de minutes. La dizaine de refroidissement, c'est un radiateur. Autrement dit, le rédacteur dit, personne n'ayant vu de radiateur d'OVNI, il est possible que ce soit des engins qui ne sont pas prévus pour marcher longtemps. C'est extraordinaire, quoi. C'est comme si quelqu'un disait, personne n'ayant trouvé de traces de crottin sous cette diligence, on peut supposer que les chevaux qui la meuvent sont de toute petite taille, enfermés à l'intérieur des capots, et soit ils ont pris des constipants, ou ça, simplement, ces diligences sont pas faites pour fonctionner longtemps, quoi. C'est-à-dire que, au 19e siècle, on aurait pu s'étonner de ne pas trouver un bac à cendres sous une Formule 1. Bon. Dire que cette phrase-là, il y en a pas mal comme ça. Hein. Elle est importante, je dirais même, elle est grave, parce que ce rapport-là a été remis au président de la République et au premier ministre. Hein. Donc ça veut dire qu'un rapport de ce genre-là, chaque phrase est relue. Hein. Là-dedans, il devait y avoir des physiciens. Eh bien, ça signe le niveau des physiciens qui sont dans cette équipe. Parce que une phrase comme ça, c'est... Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour s'apercevoir que ça tient pas debout, quoi. Ça vole pas très haut. Et en fait, le rapport Cometa est très faible scientifiquement. Donc c'est une phrase qui est très révélatrice. Alors, à côté de ça, eh bien, dans ce rapport, il y a énormément de choses, mais il y a surtout des prises de position qui sont totalement stupéfiantes. Le titre d'abord, c'est « Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer ?» Hein.
Et lorsque ce truc est sorti, tous les gens qui s'intéressaient aux ovnis sont tombés sur les fesses, parce qu'ils ont l'impression que les auteurs du rapport prenaient 50 longueurs d'avance sur eux. Je ne sais pas si je retrouverai assez rapidement la citation exacte et la page, mais on peut dire que l'antienne, le leitmotiv de ce rapport, c'est vraiment que l'hypothèse de véhicules extraterrestres, c'est celle qui tient le plus la route. Hein. Donc, après avoir entendu pendant très longtemps un refrain comme quoi les ovnis ne dépassaient rien, tout d'un coup, on découvre que la thèse développée dans ce rapport est au contraire que cette interprétation en termes de machines extraterrestres, c'est la plus crédible. Et, j'essaye de trouver des phrases clés de ce rapport, parce qu'il y a quand même des choses assez extraordinaires. Je ne crois pas que malheureusement j'aurai assez de rapidité pour arriver à tomber pile sur ce truc, j'aurais dû prendre des notes là-dessus. Mais,
En attendant, j'ai celui-ci. C'est l'avant-dernier paragraphe, donc qui sert de conclusion à ce rapport Cometa, qui me paraît assez limpide. Ainsi, il paraîtrait naturel que dans l'esprit des chefs militaires américains, le secret doit être gardé le plus longtemps possible.
Eh oui. Je vois par exemple une chose, c'est, vous avez un passage qui dit « L'armée américaine est devenue ». Il est écrit « L'armée américaine a été confrontée directement au phénomène OVNI depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle semble avoir été la seule à l'avoir abordé officiellement avec des moyens non négligeables. » Ensuite, ça se trouve page 85, « Les retombées de l'étude des OVNI. L'armée américaine a en effet conçu des aéronefs présentant les caractéristiques décrites par les témoins les plus dignes de foi. » Et là, je vous demande de réentendre cette phrase. Ça n'est pas « aurait », c'est « a ». C'est pas « l'armée américaine aurait » en effet. Les rédacteurs écrivent « l'armée américaine a en effet conçu des aéronefs présentant les caractéristiques décrites par les témoins les plus dignes de foi. Les retombées sont potentiellement considérables dans le domaine de la propulsion, des matériaux, des structures, de la furtivité et des armements. » Et le dernier paragraphe, c'est pourquoi le secret ? Le texte dit « Nous ignorons actuellement l'ampleur des connaissances que les militaires américains ont tirées de l'ensemble des études qu'ils ont menées sur le sujet, soit à partir d'observations, soit, comme cela a parfois été écrit, à partir de matériel qui aurait pu être récupéré. Quoi qu'il en soit, il est clair que le Pentagone a eu et a probablement toujours le plus grand intérêt à cacher du mieux possible toutes ses recherches qui peuvent à terme amener les États-Unis à tenir une position de large suprématie vis-à-vis d'adversaires terrestres, tout en les dotant d'une capacité de riposte non négligeable quand une éventuelle menace venant de l'espace. Dans ce cadre, il leur est impossible de divulguer les sources de ces recherches et les bouts poursuivis, car cela pourrait orienter immédiatement les concurrents éventuels vers les pistes les plus intéressantes. Le camouflage et la désinformation, tant active que passive, resteraient toujours dans cette hypothèse une nécessité absolue. Ainsi, il paraîtrait naturel que dans l'esprit des chefs militaires américains, le secret doit être gardé le plus longtemps possible. Donc ça fait partie du rapport Cometa, ce sont des phrases importantes, et moi, il me semble que ça, c'est une réflexion qui doit émaner de l'Institut des hautes études de la Défense nationale, qui sont des gens qui sont un peu habitués à réfléchir. Mais est-ce que vous imaginez, on est tombé sur ces phrases-là, mais il y en a d'autres qui expliquent que l'hypothèse de visite extraterrestre est la plus plausible. Ce rapport émane d'une association de 1901 qui est présidée par un respectable général en retraite qui est ancien pilote, qui est le général Letty. Il est préfacé par le général Lorlin, qui est l'ancien directeur de l'Institut des études de la Défense nationale. Il est aussi préfacé par le professeur Lebeau, qui est l'ancien président du CNES. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle du boulage, quoi. Des gens qui ne pourraient pas se permettre de déposer un canular sur la table du président de la République et du Premier ministre. Donc, la conclusion évidente, c'est que ce rapport n'était pas tout seul. Il y avait des pièces, il y avait des documents. On ne peut pas, comme disait un jour un ami juriste, ce sont les conclusions ou les pièces. C'est-à-dire que là-dedans, il y a les conclusions, mais il y avait forcément à l'appui un document technique,
avec des éléments de conviction. Parce qu'on ne prend pas des positions aussi avancées quand on n'a pas de preuves à apporter.
Alors là, effectivement, bon, alors si cette émission peut servir au moins à remettre le rapport comme état sur les rails, du moins à contribuer, à le repopulariser, lui donner un nouvel élan, ben ce serait déjà pas mal.
Ah oui, absolument. C'est une chose qui ne doit pas disparaître dans l'oubli, mais surtout, il y a une chose, par exemple, c'est que s'agissant justement de cette association de Quichotte, il y a une question qui devrait être posée. Il y a une action médiatique. Moi, si j'étais sur un plateau de télévision, je dirais exactement la même chose. J'aimerais avoir les responsables de Cometa en face de moi en disant, mais est-ce que vous pouvez me dire que vous avez rédigé ce document sans avoir de pièces à conviction à l'appui? Ben, ça ne me paraît pas possible, parce que c'est un coup à passer, à se ridiculiser complètement. Imaginez un homme politique de haut niveau à qui on donne son rapport, il le lit, après il dit, mais sur quoi vous basez-vous? Il faut bien qu'il se base sur quelque chose. Et se baser sur des choses solides. Et à mon avis, des spectres d'OVNI, il y en a plein des tiroirs de l'établissement technique central de l'armement. Hein. Parce que en 19 ans, les gendarmes étant tous équipés de ces bonnettes, c'est pas possible qu'ils aient pas fait ces photos. Or, faut se dire une chose, c'est que si un véritable OVNI, pas un phare de voiture, hein, si un objet vraiment intrigant passe et que quelqu'un, même de non compétent, prend une photo avec cet appareil qui produit un spectre, si on a un spectre, on va trouver, du titane, des trucs bizarroïdes, des métaux, des températures, des valeurs chromatiques très importantes avec un effet Zeeman, bon, ce sera pas une luciole, quoi. Hein. Bon, en plus, si plusieurs photos sont prises à des endroits différents, que ce sont les mêmes spectres, ça voudrait dire que c'est le même type d'engin. Hein. Bon, ça c'est le premier élément de conviction, c'est l'obtention de spectres. Je suis convaincu qu'il y en a un nombre non évaluable dans les tiroirs de l'ETCA. C'est ça qu'on a amené aux hommes politiques en disant, nous avons pris ça. En plus, il est logique non seulement d'équiper les gendarmes, mais d'équiper les avions militaires avec des bonnettes automatiques. C'est-à-dire que quand un avion militaire est en vol la nuit et qu'il voit un OVNI, eh ben, il met la bonnette sur sa caméra et il prend le film. Et à ce moment-là, on a le spectre en plus dans le temps. Mais comme c'est un militaire, il est astreint au secret défense, et ces spectres-là, vous ne les verrez pas. Donc, c'est une question à poser par l'intermédiaire d'une association. Est-ce que c'est secret défense? Si secret défense, on se heurte à un mur. Si ça n'est pas secret défense, est-ce que vous avez des spectres analysés? Là, c'est une question qu'on peut poser.
Est-ce que je peux former une hypothèse pour rattraper ce retard que vous estimez à 25 ans, retard technologique? Une façon de le rattraper, ce retard, serait que la France soit la première ou l'une des premières à tomber les masques et à dire ce qu'elle sait.
Disons que c'est vrai que Cometa, la France a été le premier à le faire à travers Cometa. Hein. Des officiels se sont mouillés en disant c'est extraterrestre. Mais il faut quand même voir une chose, c'est que la motivation de ces gens, c'était pas spécialement l'étude des civilisations extraterrestres, bien qu'il y ait beaucoup de textes là-dessus. Je crois qu'il y a une phrase du rapport Cometa qui est extrêmement importante, c'est sur la dernière page, hein. Il est écrit « Est-on en présence d'engins d'origine non terrestre ?» Cette hypothèse ne peut être écartée. Si elle se révélait exacte, elle serait grosse de conséquences pour la défense. Et je répète cette phrase, elle serait grosse de conséquences pour la défense. Donc voilà la préoccupation sous-jacente de ces gens, qui d'ailleurs sont des militaires, c'est la défense nationale. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, si elle se révélait exacte, elle serait grosse de conséquences pour l'humanité. Non, c'est pas l'humanité qui s'intéresse à la défense. Et là, vous le voyez à travers la plaquette Cometa, mais quand vous lirez mon livre en janvier, vous verrez que c'est exactement la même préoccupation chez les Américains, chez les Anglais, chez n'importe qui. L'OVNI, ça intéresse les militaires. Et ça les intéresse, non pas parce que il pourrait s'agir d'une extraterrestre. On a l'impression d'une sorte de myopie. Je veux dire qu'une histoire comme ça, c'est transcendant. Si nous avons des gens qui viennent nous voir, c'est un phénomène historiquement extraordinaire. Ben non, ce qui est intéressant, est-ce qu'on pourrait pas faire des armes avec? Alors, vous avez des choses qui ont un peu dérivé de l'histoire des ovnis, vous avez les armes à micro-ondes, par exemple.
De toute façon, Jean-Pierre Petit, si je peux me permettre, vis-à-vis des militaires, il y a la même proportion de cons que dans la société civile.
Oui, aussi.
Mais ça ne gâche que moi.
Toujours intelligent, mais.
Et inversement.
Et inversement. Mmh. Et je veux dire que le. Quand je suis allé à ce colloque en Angleterre et que je suis revenu, que j'ai vu les choses hallucinantes que les Américains avaient faites, c'était raconté par des braves types. Et moi, j'avais honte d'être scientifique. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on s'arrête là, hein? Récemment, j'ai rencontré des personnages qui sont liés au service officiel, liés à l'armée, liés à ceci, liés à cela. Bon, pas tellement envie de dire qui il s'agit. Mais j'ai compris que la préoccupation du ministère de la Défense actuel, lesquels comprennent d'abord avec Cometa, on voit que dès 99, ils avaient compris qu'il y avait vraiment le bateau coulait, quoi. Hein, je veux dire, le problème de l'OVNI, ça les interpelle. Maintenant, quand vous voyez le contenu de Cometa, lorsque les types parlent de MHD, ils n'y connaissent strictement rien. Dans la bibliographie, les livres cités, c'est le livre de Velasco et Jean-Claude Bourret qui s'appelle OVNI, la science avance, qui n'a aucune tenue scientifique, et il y a ma bande dessinée, le jour du silence. Alors que, quand même, si un gars avait fait un petit effort, il aurait trouvé nos articles scientifiques publiés dans des colloques internationaux, nos publications, etc. Ça faisait déjà beaucoup plus sérieux. Et ce rapport comme état, il est quand même fait pour être lu pour le journal public, c'est pas le journal de Mickey, quoi. Dans les références, on aurait pu mettre des choses un peu plus intelligentes, comme la thèse de Lebrun, par exemple. Donc, ce qu'il y a, c'est quand on lit ce texte, on réalise que vraiment, ils n'y connaissent rien. Et en fait, la MHD, elle a totalement disparu en France. Je vous jure, j'en ai eu la confirmation, il n'y a pas de MHD militaire. On est complètement absent sur ce créneau. Alors, le haut ministère de la Défense, et ça je peux vous le dire aussi, parce que ça m'a été répété, alors ils n'arrêtent pas de discuter. Hein. Je veux dire que, dites ce que raconte Jean-Pierre Petit sur son titre, qu'est-ce que vous en pensez. Même, ils paniquent complètement, même pour les armes électromagnétiques, parce que le retard, il est de tous les côtés. Hein. C'est-à-dire que, de ce côté-là, vous commencez à voir ça dans la presse, avec même on parle des systèmes à compression de flux. Hein, si de la compression de flux, il y en avait les plans dans Internet, maintenant on le trouve dans les journaux, il y avait ça dans Le Point, etc., etc. Mais moi j'avais décrit ça en 95 dans mon bouquin Les Enfants du Diable. Et ça venait d'une publication des éditions Anthropos qui reproduisait des travaux de Sakharov de 1984. Donc déjà ça nous remonte déjà pas mal. Et savez-vous, quand les Russes ont fait marcher les premiers générateurs à compression de flux en 1952, ça il y a un demi-siècle. C'est-à-dire entre l'appareil qui fabrique 100 millions d'ampères en 1952, et le fait que le grand public commence à en entendre parler, c'est qu'il y a un demi-siècle. Moi, je trouve ça génial comme délai. Mais actuellement, on a pu lire que les Français, les Allemands, les Anglais se sont mis ensemble en disant effectivement qu'on développe des armes électromagnétiques, mais là encore, il y a 25-30 ans de retard. Et qu'est-ce qui a fait que les Américains se sont axés là-dessus? C'est l'étude du phénomène OVNI. Ils ont pris ça au sérieux. Ils ont dit, tiens, ils paralysent des bonshommes. Tiens, ils font ceci. Tiens, ils font cela. Tiens, ça a tel effet. Qu'est-ce qui pourrait faire cet effet-là, hein? Par exemple, lorsqu'il y a eu l'affaire de Trans-en-Provence en 1981, cette affaire a été enquêtée par le GEPAN. Bon. On doit la réussite de cette enquête à un personnage central qui est le gendarme qui a eu la bonne idée de ramasser les herbes dans une caisse à chaussures en ramassant le support terreux. Donc il a permis, comme ces échantillons sont restés, je crois, 3 semaines avant d'être analysés, ils étaient quasiment dans un pot de fleurs, enfin dans la caisse en carton, et ils sont pas morts. Ils ont eu un peu de lumière, quoi, bon, parce que faut pas compter trop sur le GEPAN de l'époque pour prendre des mesures intelligentes, ce genre de choses. Et ces échantillons arrivent par hasard, ou je sais pas, c'est par hasard, enfin quelqu'un a eu l'intelligence de les confier à Boudias, et Boudias avait fait sa thèse de doctorat sur les traumatismes subis par les plantes sous l'effet de radiation. Il avait fait sa thèse au CEA. Il travaillait à l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche en Agronomie. Donc il était très équipé pour faire des mesures très sophistiquées sur tout ce qui pouvait être altéré dans les plantes. Alors, les pigments, il y a la violaxanthine, le carotène, comment ça s'appelle déjà, enfin, il y a un certain nombre d'éléments, de composants comme ça, qui sont analysables dans une plante très facilement. Et Bougnat constate que dans la trace et à l'extérieur de la trace, il y a une différence considérable. Il y a des pigments qui sont altérés à 80%. Quoi. C'est pas normal, parce que normalement c'est assez stable. Et il fait effectuer des prélèvements sur 20 mètres, tous les mètres, et à ce moment-là on voit apparaître une superbe courbe totalement corrélé avec la distance. Avec un quotient de corrélation, bon, s'il y a des scientifiques qui écoutent, de 0,98, quoi. Et puis même, voir mon livre Enquête sur les ovnis, où j'ai reproduit toutes ces courbes, tous ces trucs. Donc, il y a un phénomène. Et alors, c'est là que c'est curieux. Il y a des gens qui se sont excités pour la désinformation. Il y a en particulier un ufologue qui a lancé une thèse comme quoi ces altérations étaient dues au béton projeté par une bétonnière. Et vous seriez curieux d'apprendre, si vous ne le savez pas déjà, que les gens qui sont le plus opposés à l'hypothèse extraterrestre, ce sont les ufologues. Parce que, bon, ce type, il s'appelle, je crois, Michel Figuet, et il avait écrit un livre. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient plus intéressés par le paranormal, ou un truc comme ça. Enfin, le pauvre Bougnat a été obligé de prendre une bétonnière, de prendre du béton, de l'acheter sur les usernes, pour voir que ça faisait strictement rien, quoi. Il a fait une contre-expertise, quoi. Mais ce truc-là, c'est historique, parce que on s'est aperçu que l'objet, parce que là, monsieur Rolando Nicolai, dans ce terrain, il avait juste posé un truc de 2 mètres de diamètre, qui avait laissé des traces au sol, qui avait frappé le sol assez violemment. C'était peut-être un drone extraterrestre, c'était une grosse gamelle, 2 mètres 50 de diamètre, 50 centimètres d'épaisseur, qui avait apparu tout d'un coup au-dessus des arbres et qui s'était posée. Elle a stationné pendant un moment, il l'a observée, je ne sais pas, une quinzaine de mètres de distance, puis après elle a décollé. Donc il y avait une observation parfaite, et à partir de cette observation, un biologiste arrive et constate que la trace, c'est l'épicentre d'un phénomène biologique que ce brave Nicolas est strictement incapable de fabriquer. Je me rappelle que Mounias avait déclaré à l'époque que pour faire une trace biologique de ce genre, il aurait fallu une source radioactive de 100 mégarades, quoi. Alors évidemment, on aurait pu se dire que Nicolas avait un cousin qui avait un hélicoptère silencieux, et puis il avait un autre cousin qui travaillait au CEA, et que tous les deux, la nuit, ils avaient amené, enfin bon, pour fabriquer une trace. Là, l'explication en termes de canular devient lourde, devient compliquée, quoi. C'est pas possible. Alors il y a donc eu ce phénomène de transe. Et puis assez rapidement après, il y a eu un deuxième cas où il y a eu altération des végétaux, qui est le cas de l'amarante, qui a été à ce moment-là enquêté par le CEPRA. Et là, on a la surprise d'apprendre, premièrement, que Bougnas n'est pas appelé sur les lieux quand l'événement se produit. C'est curieux, parce que la logique des choses voudrait dire, ce type-là, et surtout que Bougnas avait expliqué comment il fallait faire. Il a dit, si on fait des prélèvements, le mieux c'est d'y aller avec du gaz carbonique liquéfié, on met les végétaux dedans, et à partir du moment où ils sont conservés là-dedans, je peux les analyser un mois après, c'est pas rien, l'information est gelée, c'est bon. Hein, il avait donné tout un protocole de recueil d'échantillons. Okay. Bon, et là, moi j'aurais été chef du GEPAN, j'aurais téléphoné à Bougnas, j'aurais dit, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas vous déplacer, évidemment, on vous remboursera votre essence, etc., et puis vous faites de nouveau les analyses. Il n'a pas été mis au courant. Ensuite, les gendarmes, tout d'un coup, sont pris d'une stupidité totale, ils prennent des ciseaux, ils découpent les tiges, ils mettent les plantes dans des sachets en plastique, qu'ils agrafent, à la limite, ils les laissent carrément sur les lunettes arrière de la voiture, il faut qu'ils arrivent bien cuits, et au bout de quelques temps, ils sont confiés à un laboratoire de biologie de Toulouse, qui se retrouve avec des échantillons complètement décomposés, quoi, dont ils ne peuvent strictement rien tirer.
Une occasion perdue.
Oui, alors, oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la question que je voudrais poser. Est-ce que il y a eu une stupidité considérable qui est intervenue, ou est-ce que le TCA a, elle, bénéficié d'échantillons correctement prélevés? Après avoir construit dans ces laboratoires le clone du laboratoire de Bougnas. Parce que on a eu un trans en Provence, qu'est-ce que ça s'est plus jamais réédité. Moi je dis que parmi les pièces dont ont bénéficié le président de la République et le Premier ministre, il y avait un trans en Provence, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça a dû se reproduire. Mais je veux dire que dans la mesure où on décide que tout ça doit rester secret, le grand public ne doit pas avoir accès à ce genre de choses. Donc s'il y a eu des spectres d'OVNI pris, on ne les verra pas. Trans-en-Provence, on a eu la chance, on a vu la courbe, mais après, ça ne s'est plus jamais reproduit, quoi. En 20 ans, ça fait 21 ans. Il n'y a plus jamais eu de traces biologiques. Moi, je ne crois pas. Je pense que les traces biologiques ont été analysées et que ces analyses sont gardées secrètes. Donc, il y a tout un dossier. Alors là, bon, bah, Je crois qu'il faut que les militaires se définissent. Peut-être que le gouvernement dira, écoutez, c'est vrai, les ovnis, c'est secret défense. Ah, ben, si c'est secret défense, c'est pas pareil, quoi. Mais on peut pas, comment dire, parler d'un phénomène naturel, parler d'un pack de foudre, parler de choses comme ça, et lorsqu'on cherche à se rapprocher du phénomène, on a ce délai de 60 ans qui s'écoule avant d'avoir accès à un rapport de gendarmerie, et puis, ma foi, ben, y a une suspicion sur la façon dont fonctionne le CEPRA, quoi. Je suis désolé, j'aimerais bien avoir accès aux archives du CEPRA, je pense que...
En tant que citoyen, tout simplement.
En citoyen, vous savez, en Amérique, quand ça n'est pas secret défense, on a accès. Bon, alors voilà, il y a un audit, il paraît que c'est un audit interne, on ne peut pas le voir, il y a des archives, on ne peut pas les voir non plus, et même, il y a le bruit qui court que le CEPRA va disparaître et va être remplacé par un service qui dépendrait de la Légion civile. Ce serait curieux parce qu'à ce moment-là, les archives disparaîtraient.
Ben, on en parlera le moment venu si ça doit se passer.
Jean-Claude Petit, quand on parlait de cette association, elle a du pain sur la planche, elle a des tas de choses à réclamer.
Avant que vous nous disiez, bon, je suis au bout du rouleau, il est tard, on va laisser un peu de place aux auditeurs.
Ah oui.
Normal. Sur ici et maintenant, c'est légitime. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Mm-hmm. Donc, ne nous dites pas que vous avez un coup de fatigue avant d'avoir répondu à quelques-unes de leurs questions. D'accord.
Entendu.
Bien. Alors on leur fait une place. On leur fait une place. Toute petite pause musicale, j'annonce les standards 01 45 75 44 44.
Et oui, et 01 45 75 45 deux fois.
Possible, quoi. Puis maintenant, après, j'ai compris. Donc, il y a des choses, on essaie. Par exemple, un type m'a parlé d'une nouvelle qui est apparue sur le net il y a quelques jours. Les Canadiens ont apparemment pris un film ou une photo d'un objet qui allait très vite dans le ciel, et devant cette trace de condensation, il n'y avait pas d'écho radar. Donc, bien sûr, parce que si c'est Aurora, il est furtif, il est entouré de plasma, il ne fait pas d'écho. Donc là, c'est bizarre, voilà un avion qui va très vite, il n'y a pas d'avion. Donc maintenant, ça commence à apparaître. Alors si ça, c'est vrai, on est obligé de considérer tous les bruits de couloir. Parce qu'il y a 10 ans, c'était un bruit de couloir.
Stéphane, ça répond à vos questions ?
Oui, en fait, c'était pour vous. En fait, cette personne, je l'ai eue lors d'un repas. On a discuté, bon, c'était par rapport à mon père, tout ça, il discutait un petit peu de SF et tout ce qui est objet plutôt pas non identifié, mais bon, tout ce qui est phénomène paranormal. Et donc, ce monsieur, il a parlé du MJ-12 et du GEPAN. Et en fait, comment vous dire ça, apparemment, on nous cache réellement des choses par rapport à...
Attendez, je vais répondre à la question parce que... J'avais trouvé une image qui était pas mal. Imaginez une histoire parallèle. On n'est pas sur Terre, on est sur une espèce de Terre parallèle. Donc sur cette Terre parallèle, on se situe en 1890. Il y a les pays d'Europe, il y a l'Amérique. Et puis imaginez qu'il y ait une ethnie sur Terre qui fabrique des avions. Alors les avions se baladent au-dessus des gens. Et alors il y en a qui sont sceptiques, qui disent que les gens ont des hallucinations, etc. Et puis... les Américains ont de la chance, un jour il y a un avion qui se casse la figure, ils ramassent les morceaux, ils comprennent comment ça marche, et 40 ans après, ils savent en fabriquer un, ils le font voler. Et qu'est-ce qu'ont fait les Français? Les Français, ils ont créé un service qui s'est beaucoup intéressé à la question, et ils ont pu un jour photographier des traces de pneus à un endroit où l'avion avait atterri, et 40 ans après, ils connaissent exactement la distance qui existe entre les roues. Voilà à peu près où on en est, quoi. Disons que nous, on a la preuve que ça existe, et les Américains ont fabriqué des navettes hypersoniques. Je sais pas si vous imaginez la distance.
Monsieur Petit.
Donc, MJ-12 aussi, c'est un truc qui nous est venu de...
Ah, vous entendez très mal, là.
Il y a justement un peu d'effet d'arsène, je sais pas. Voilà, nouveau commentaire sur. Mais vous voyez que Jimmy Dieu parlait du paranormal. Et le paranormal a beaucoup servi aux Américains à brouiller les cartes.
Monsieur Petit.
Parce que quand c'était paranormal, c'était pas de la MSD. C'était pas du nucléaire, c'était pas de la physique. Et les gens qui étaient partisans de cette explication physique, on les appelait les nuts and balls. C'est-à-dire les boulons et les trous, quoi. Moi, je faisais partie des nuts and balls, des gens qui disaient, on peut comprendre comment ça marche. Et Vallée disait que c'était complètement indécent de vouloir comprendre quelque chose qui avait peut-être 3 millions d'années d'avance sur nous. C'est vrai que moi, je suis parti d'une hypothèse en disant,
Vous savez, imaginez par exemple que qu'un type ait vu se poser un hydravion dans un étang. Bon, le gars de l'hydravion est descendu, il a pris un petit canot pneumatique et puis il est allé sur terre, il a ramassé trois mains d'herbe et après il a redécollé. Et le type qui voit ça, il est pratiquement néolithique. Bon, bah, il comprend pas comment marche l'avion, mais il arrive à comprendre ce que c'est que le bateau et la pagaie. Donc à un moment, il montre à ses copains, il dit voilà, j'ai fabriqué un truc comme ce que j'ai vu, et puis vous voyez, on peut se balader sur le lac. Bon, ben, nous, on n'est pas capable de comprendre comment marche un truc qui va d'une étoile à l'autre, mais on comprend le petit canot qui permet de débarquer, quoi, la navette. Et d'après ce que j'ai compris, ce que les Américains ont récupéré, ce serait une navette, c'est pas du tout l'engin interplanétaire. Et c'est pour ça qu'ils sont très intéressés par le voyage. Maintenant, c'est ça qui leur manque.
Oui, Stéphane, tu as une question à poser.
Oui.
Monsieur Petit, moi, quand j'écoute, en fait, j'enregistre toutes vos émissions. J'écoute et je réécoute avec très grande attention. Et vous avez parlé d'une fois d'un avion qui est à peu près 12 000 km/h. Et en vous écoutant, en fait, bon, je me suis mis à dessiner parce que je dessine un petit peu, plutôt, ça va, je dessine assez bien. Et en fait, là, quelque chose que j'aimerais vous faire parvenir. Parce que par rapport à ce que vous avez dit, j'ai fait une quinzaine de dessins, et donc je suis arrivé à un dessin à la fin, que pour moi, en fait, ça pourrait être peut-être un engin qu'on pourrait, en fait, pour éviter que l'appareil, en fait, il soit repéré au décollage, il partirait d'un autre avion, style, comme la navette spatiale qui est superposée sur un 747. L'avion prend de l'altitude, l'appareil se décroche, il prend de l'altitude tout seul, il se met en route, il monte à peu près à 80 km d'altitude, il fait comme vous dites à 12 500 et passe frapper l'Afghanistan, mais il reste en... je sais pas si c'est en astro... dans la stratosphère ou je sais pas, mais bon, l'avion continue, et en fin de compte, l'avion serait, en fait, ferait une rotation carrément de la Terre, et il reste reposé aux États-Unis en fait.
Oui, mais vous savez, les Américains ont des bombardiers qui décollent par leurs propres moyens, qui montent à 60 km d'altitude, qui font des missions à 20 000 bornes, qui reviennent, hein, 20 000 bornes, je veux dire, à 15 000 km, et qui reviennent dans la nuit, qui volent à 10 000 km/h. Bon, ben, ça, moi, c'est la thèse que je défends. Alors, je sais que y a un type qui s'est pas mal manifesté, encore récemment, d'ailleurs, en parlant de délire technologique. Bon, bah, ben, c'est un journaliste, et c'est bien de voir des gens qui parlent de moi à la radio ou à la télévision quand je suis pas là. Ce serait mieux si j'étais en face, parce que moi, j'ai fait l'école supérieure aéronautique. J'ai été ingénieur d'essais de fusée à poudre. J'ai construit des machines. Je suis théoricien. Je connais bien la mécanique des fluides. Donc, qui j'ai en face? Qui se permet de tenir de tels propos? Quelle est votre formation? Est-ce que vous connaissez la MHD? Oui ou non? Et le gars qui parle de ça ne sait rien sur la MHD. Il ne connaît rien. Bon, ben, je crois que c'est comme ça que ça va se passer un jour sur un plateau de télévision. Je dirais, écoutez, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. C'est tout. Il faudra que ça soit dit, mais il faut que je sois là pour le dire. Parce que si je ne suis pas là, personne ne le dira.
Bien, on va laisser Stéphane, sans rancune. N'est-ce pas,
Monsieur Petit?
Stéphane, oui, on va laisser la place pour que Jean-Pierre Petit puisse dialoguer avec d'autres personnes, oui.
Simplement, je voulais savoir comment je pourrais faire parvenir ce dessin à Monsieur Petit.
Vous avez l'adresse du Gesto dans le site, envoyez ça au Gesto, vous savez pas rien.
Non, non, il ne parle pas d'Internet, il parle de l'adresse postale du Gesto.
Ah oui, l'adresse postale
Du Gesto, non, je n'ai pas l'adresse postale. Par contre, mais votre ligne, je n'ai pas réussi à le trouver.
Elle est dans mon site.
Oui, mais il n'a pas Internet pour aller voir sur le site.
Ah bon, alors c'est Chemin de la Montagnière, 8420, Pertuis.
Voilà, est-ce que Stéphane a eu le temps de noter?
Je pourrais l'avoir en antenne. Hein,
Gesto, Chemin de
la Montagnière. On a plein de choses à faire en antenne. Gesto, oui.
84, Chemin de la Montagnière.
84, Chemin de la Montagnière, oui.
84-120
Pertuis. 84-120 Pertuis. Voilà, Stéphane.
Je vous remercie, monsieur.
Merci.
Monsieur Petit, c'était un honneur de discuter avec vous.
Oh là là.
Je vous remercie. Au revoir.
Merci, Stéphane. Radio ici maintenant 95.2. Bon. Le standard qui est libre, c'est le 44-44, c'est ça. 01-45-75-44 deux fois. Radio ici maintenant, 95.2, c'est au tour de Pierre d'intervenir. Bonjour.
Bonsoir Didier, bonsoir Jean-Pierre. Moi j'ai deux questions à vous poser. D'abord, selon vous, combien d'ethnies extraterrestres vous évaluez à peu près qui auraient plus ou moins accosté sur Terre, enfin qui sont plus ou moins passé selon vous, quoi, d'après les informations que vous avez pu recouper et autres. Vous en savez à combien d'ethnies?
Ben, bon, d'abord je crois que il y a encore quelques années, on s'interdisait de dire ce qu'on pensait vraiment. Et là, même Cométa le dit, donc je crois que on peut avoir la conviction qu'on est visité.
Ouais,
maintenant,
moi, honnêtement,
il suffit de se référer aux observations. Il y a des gens qui voient des grands, des petits, des gros, etc. Il y a plusieurs ethnies. Combien, j'en sais rien. Mais,
on peut pas savoir. Très mal.
Il y en a pas mal. Quoi. Mais je voulais simplement dire une phrase que j'ai pas dite ce soir, puisque on parlait justement de cette association, quoi faire, etc. Et c'est vrai que si on me posait la question en disant, mais Monsieur Petit, actuellement, que pensez-vous que nous devrions faire? Ben, je répondrais, si c'est fabriquer des engins hypersoniques imagés comme les Américains, on a 25 ans de retard, on pourra toujours essayer de faire quelque chose, mais ça risque de pas être efficace. Par contre, sachant maintenant que c'est des engins extraterrestres, fabriquer des armes, ça me paraît un peu débile, il faudrait essayer d'entrer en contact avec ces gens. C'est ça l'urgence. Et à ce moment-là, un journaliste pourrait me dire, mais entrer en contact avec les extraterrestres, mais pour leur dire quoi? Qu'est-ce que vous leur diriez? Bah, je leur dirais, écoutez, ça fait 5 ans que vous venez nous rendre visite, et même peut-être beaucoup plus que ça, vous ne nous avez pas encore colonisé. Pourquoi? Nous, si on était arrivé quelque part, on aurait rattiboisé tout le monde depuis longtemps. Donc, vous avez un truc. Pourquoi est-ce que vous ne vous appropriez pas nos richesses? Pourquoi est-ce que vous... Ne nous éliminez-vous pas, quoi, c'est tout. Il y a quelque chose à comprendre, et peut-être qu'ils nous expliqueraient quelque chose de fondamental qu'il faudrait qu'on comprenne, nous.
Peut-être qu'ils nous ont déjà colonisés, finalement. Et...
Quoi?
Peut-être qu'ils nous ont déjà colonisés.
Peut-être qu'ils nous ont déjà colonisés, mais alors s'ils l'ont fait, c'est pas très réussi, parce que je trouve que le zoo marche pas très mal, quoi. Moi, je crois, vous savez, quand on regarde la Terre avec l'œil d'un extraterrestre, vous n'avez qu'à vous imaginer atterrissant sur Terre au moment de la guerre de 100 ans. Hein.
Ouais, ça,
vous
oui.
Voyez des gens en train de s'étriper, qu'est-ce que je peux faire? Ma réponse, rien, vous regardez, vous repartez. Ouais. On peut rien faire. On peut rien faire, parce que, regardez, la réponse, vous l'avez dans le rapport Cométa, vous l'avez dans les travaux américains. Qu'est-ce que fait l'homme quand on lui apporte une technologie nouvelle? La réponse, il fait des armes, c'est tout.
Et vous, par exemple, est-ce que vous accepteriez de travailler sur un projet, par exemple, ne serait-ce qu'une mission, d'envoyer un véhicule sur la Lune pour voir la face cachée? Par exemple, vous en avez déjà entendu parler du fait de ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est intéressant de voir dans quel cadre privé on pourrait faire ça.
Il n'y a même pas à travailler sur un projet. Je veux dire que les missions lunaires, c'est tellement facile. Je veux dire, envoyer un robot sur la Lune, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas continué à explorer la Lune avec des robots automatiques comme Lunokhod. Hein, envoyer un truc sur Mars, c'est compliqué, c'est quand même vachement plus long. La Lune,
ouais,
c'est 4 jours de voyage, c'est rien du tout.
Oh
non. Alors, qu'on ne plus de mission humaine, parce qu'on dit, oh, c'est très compliqué, c'est vrai que le projet Apollo, c'était vraiment les fusées de 114 mètres de haut. Mais maintenant, en plus, on a une électronique miniaturisée. Moi, j'ai vu Lunokhod, la maquette à Moscou, c'est un gros machin qui faisait, je sais pas, 500 kilos, qui faisait de 1,50 m de hauteur et 1,50 m de diamètre avec ses chenilles. Mais maintenant, on ferait la même chose avec un truc qui serait de la taille d'une poussette, quoi. Et ça marcherait très bien. Et en plus, il y a un problème, un truc qui est très simple, c'est que sur la Lune, c'est à une seconde lumière. Donc, on peut le conduire depuis la Terre avec un volant. Lunokhod, ça se conduisait. Le Russe, il avait l'écran de télé devant les yeux. Alors, on ne pouvait pas faire ça sur Mars. Mars, c'est à plusieurs minutes lumière. Donc, on ne peut pas faire une conduite en direct.
C'est à 20 minutes de décalage. Oui.
Voilà, 20 minutes de décalage. Alors que, par exemple, imaginez que vous vouliez explorer cette face cachée de la Lune. Eh bien, vous mettez un système de satellite artificiel autour de la Lune, exactement comme les satellites de télécommunication, qui vous renvoie l'image...
Une seconde, Pierre. Ça ne sert à rien de parler en même temps. Les liaisons téléphoniques sont pas excellentes et
oui.
On entend Pierre parler en fond alors que Jean-Pierre Petit a pas fini de répondre à la précédente question.
Oui, ben je répondais, il me parlait de la Lune en me demandant si j'accepterais de travailler à un projet, mais ça veut rien dire, je veux dire, le projet, il y a qu'à le faire.
Non, mais est-ce que Jean-Pierre Petit accepterait de collaborer à un projet
bien sûr, pour aller voir ce qui se passe sur la Lune.
Et s'il était semi-militaire
Bah, celui militaire, si c'est un projet qui doit être complètement confidentiel de défense, moi ça m'intéresse pas, c'est tout. Je pense que cette histoire-là, ça appartient aux êtres humains, ça appartient aux hommes de la planète, ça appartient aux citoyens.
Voilà, c'est dit. Pierre, une autre question ?
Non, c'est bon.
Bien.
Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Allez, j'en viens un petit dernier effort, dernière ligne droite.
Allez, une dernière question après on va se coucher.
Très bien. 01 45 75 44 deux fois. Radio ici maintenant, 95.2, en direct avec Jean-Pierre Petit, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, je ne l'avais pas dit, et son site internet jp-petit.com, alors http, 3W, etc. devant, comme d'hab, jp-petit.com, et nous recevons Alain.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonsoir, plutôt. Je voulais poser une question à Jean-Pierre Petit sur une hypothèse, et je voudrais avoir son avis. À propos des visiteurs extraterrestres, est-ce qu'il a envisagé que ces visiteurs, ce soit nous, c'est-à-dire des êtres humains, dans 1000, 2000, 10 000, 1 million d'années, qui
viennent
du
futur.
Nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des gens d'une autre planète ou de monde extraterrestre, ce soit tout simplement des terriens, donc qui viendront en observateurs. Je dois avoir sa réponse.
Oui, mais des terriens qui habiteraient où ?
Donc, qui viennent du futur.
Qui habiteraient sur la Terre, dans un avenir proche ou lointain. Que ce soit nous, plus tard. Donc nous, qui font un voyage dans le passé. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et nous, on est le passé.
Oui, ce sont des thèmes qui ont déjà travaillé la science-fiction et je ne peux ni vous répondre par l'affirmative, ni vous contredire. Là. Ça, on ne peut rien dire. Vous savez, ça peut aussi être Dieu qui prend la forme d'un extraterrestre. On peut absolument tout dire là-dedans. Je ne dirais pas que le scientifique essaye de s'orienter vers les hypothèses les plus simples. C'est vrai que le simple, quelquefois, ça amène à l'obscurantisme. C'est-à-dire, première hypothèse simple, ça n'existe pas. Deuxième hypothèse simple, ça vient de Mars. Troisième hypothèse, ben, ça vient de plus loin, ça vient d'autres planètes. Comment, j'en sais rien. Puis alors vous lancez le bouchon encore un peu plus loin en disant, ben, ça pourrait être des terriens qui voyageraient dans le temps. Bon.
Ça me semble plus simple.
Pas de réponse.
D'accord. Merci.
De rien.
Au revoir.
Merci Pierre pour merci Alain pardon pour ta question. Didier.
Oui, alors donc on va se retrouver une prochaine semaine par exemple début janvier autour de la parution du prochain bouquin Jean-Pierre Petit.
Mmh. Je voudrais simplement avoir une phrase de conclusion, c'est que bon ben après 7 ans de silence grâce à ta radio, à ce moment-là, on peut parler et toucher des gens. J'ai écrit un livre aussi. Je ne sais pas s'il y aura des échos médiatiques. Je ne sais pas si on s'y intéressera ou pas. Puisque, par exemple, un livre comme Les Enfants du Diable n'a eu strictement aucun écho médiatique, aucune sortie. On a perdu de la moitié de l'univers. Ça a été pratiquement pareil. Donc, on verra bien. J'aurais fait mon devoir. J'aurais fait ce que je pouvais faire. On voit que j'essaye de lancer des choses, qu'il y a des gens qui rattrapent un peu ça, comme ce projet Don Quichotte. Mais si vous ne faites pas quelque chose, rien ne se passera. Je ne peux pas tout faire tout seul. Sans ça, je suis Don Quichotte, façon moulin à vent. Si vous, les Français, vous les citoyens, en plus c'est au niveau international, vous ne faites pas quelque chose, nous allons nous taper 25 ans supplémentaires de silence. Voilà, c'est tout. Et je vous dis bonsoir.
Bien, Jean-Pierre Petit, on va lancer maintenant la lecture du projet Révélation, c'est la traduction française de Disclosure Project.
c'est assez instructif aussi. Et il y a une question toutefois qui se pose à ce sujet. Est-ce une tentative, façon Jean-Pierre Petit, mais de l'autre côté de l'Atlantique, ou est-ce que c'est une désinformation pour faire sortir du bois des scientifiques complices?
Ben, la question se pose, effectivement, parce que quand on lit Disclosure, on a l'impression qu'il y a un souffle épique fantastique là-dedans. Bon, les témoignages qui sont fournis sont pas bouleversants, et surtout, ben, comme c'est le projet Révélation, c'est un appel à ce que les scientifiques qui travaillent sur les Black Programs se manifestent. Et moi, je me rappelle du Let's Limit que j'ai reçu en 91, qui demandait ce genre de démarche. Maintenant, donc le gars qui a écrit ce texte de Disclosure, il incite ces gens-là à parler. Mais faut voir un petit peu dans ce texte, les gens n'hésitent pas à tuer là-dedans. Donc il y a quelque chose de pas très logique. Comment se fait-il qu'ils soient encore vivants? Parce qu'en Amérique, on tue, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire que là, on me l'a dit 100 fois, quand vous dérangez, on vous élimine. Ça, il y a des exemples historiques complet. Alors, dans ce projet, ben, on va le savoir assez rapidement, parce que moi j'ai écrit à ce monsieur, et je lui ai dit, écoutez, vous souhaitez que les gens, des travaux qui sont faits dans ces Black Programs soient révélés. Bon, ben moi, j'ai mis le doigt sur des choses de genre, est-ce que ça vous intéresse? Alors si ça l'intéresse et que c'est publié, c'est que Disclosure, c'est fait pour fonctionner. S'il n'y a pas de réponse, on aura un autre type de réponse. Parce que le fait de monter un truc comme ça pour amener des gens à se dévoiler et les éliminer, alors ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Allez, bonsoir.
Merci Jean-Pierre Petit. Donc ce texte dont on va prendre connaissance maintenant s'appelle La tromperie cosmique, soyez vigilants, et l'auteur Stephen Greer.
Imaginez un peu ça. Vous êtes à l'été 2001, hémisphère nord, et quelqu'un vous présente un scénario de film ou de livre proposant une intrigue terroriste diabolique au cours de laquelle les tours de 110 étages du World Trade Center et une partie du Pentagone sont détruites par des avions commerciaux qui ont été détournés pour venir s'écraser contre ces structures. Bien sûr, vous ririez. Et si vous étiez un producteur de films ou un éditeur de livres, vous repousseriez un tel scénario parce qu'il vous semblerait tout à fait ridicule et invraisemblable, même en tant qu'élément de fiction littéraire ou cinématographique. Après tout, comment un avion commercial, traqué sur radar après que deux autres avions eussent déjà défoncé les tours du World Trade Center, pourrait-il traverser nos défenses aériennes dans l'espace aérien le plus surveillé du monde, en plein jour et par beau temps, et foncer sur le Pentagone? Et c'est un pays qui dépense $1 milliard par jour pour sa défense, absurde, illogique, personne n'avalerait ça. Malheureusement, il y en a parmi nous qui ont vu ces scénarios, et d'autres à venir qui sont encore pires, et nous ne trouvons pas cela très drôle. Un aspect positif à ces tragédies récentes serait peut-être, seulement peut-être, que les gens prendront au sérieux la perspective qu'une entité transnationale, paragouvernementale, nourrissant de sombres desseins, existe, même si cela leur paraît très difficile à croire au début, que cette dernière a gardé secret l'existence des ovnis et qu'elle planifie une tromperie et une tragédie qui feront pâlir par comparaison les événements du 11 septembre dernier. Le témoignage de centaines de témoins appartenant aux corps gouvernementaux, militaires et corporatifs ont établi ceci: que les ovnis sont réels, que quelques-uns sont construits dans le cadre de projets secrets dits noirs de notre gouvernement, le gouvernement américain, et que quelques autres proviennent de civilisations extraterrestres qui nous visitent, et qu'un groupe a gardé cela secret afin que la technologie derrière l'ovni puisse rester cachée jusqu'au moment voulu. Cette technologie peut remplacer et remplacera éventuellement le pétrole, le gaz, le charbon, les usines thermonucléaires et autres systèmes d'énergie centralisés et hautement destructeurs. Cette industrie, qui rapporte $5 milliards, énergie et transport, est actuellement hautement centralisée, mesurée et lucrative. C'est elle qui mène le monde industrialisé en entier. C'est la mère de tous les intérêts spéciaux. Ce n'est pas une question d'argent, comme vous et moi le pensons, mais c'est une question de pouvoir géopolitique, le pouvoir centralisé lui-même qui gère l'ordre dans le monde actuel. Le monde a été maintenu dans un état de guerre continuelle, de pauvreté sans fin pour la plupart des habitants de la Terre et de ruines environnementales globales, juste pour soutenir cet ordre mondial démoniaque. Aussi élaboré que soit ce jeu, il y en a un plus grand encore, le contrôle via la peur. Comme Werner von Braun le disait au docteur Karl Rossin, son porte-parole au cours des 4 dernières années de sa vie, une machine maniaque, le complexe militaire, industriel, scientifique et intelligence, espionnage, sécurité, passerait de la guerre froide aux nations fourbes, de là au terrorisme global, l'étape à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, puis à la carte d'atout ultime, une menace montée de toutes pièces comme venant de l'espace. Pour justifier éventuellement la dépense de milliards de dollars pour armer l'espace aérien, on ferait croire à la population qu'elle est menacée par des extraterrestres, utilisant ainsi la peur pour réunir les nations dans le militarisme et la guerre. Depuis 1992, au moins une douzaine de personnes informées de l'intérieur sont venues me révéler ce plan. Bien sûr, j'ai commencé par en rire, pensant que cela était tout simplement trop absurde et impossible. Le témoignage du docteur Rossin fut livré au cours du projet Révélation. C'était avant le 11 septembre. Et d'autres encore m'ont dit explicitement que des choses qui ressemblent à des ovnis, mais qui sont construites et sous le contrôle de projets noirs, hautement secrets, étaient utilisées pour simuler des événements au cours desquels des soi-disant extraterrestres révélaient leur présence, et que cela incluait quelques enlèvements de personnes et la mutilation de bétail, afin de semer les premières graines de crainte culturelle face à la présence de la vie dans l'espace. Et qu'à un certain point après le terrorisme global, des événements se précipiteraient qui utiliseraient les véhicules reproduits selon la technologie extraterrestre, VRTE, c'est-à-dire des véhicules qui ont été construits par des humains suite à leur étude de vaisseaux spatiaux ITI réels selon la technique de l'ingénierie inversée. Voyez le livre Disclosure par le même auteur, pour monter le canular d'une attaque sur Terre. Comme dans le film Independence Day, une tentative serait faite d'unir le monde à travers le militarisme utilisant les ITI comme nouveau bouc émissaire cosmique, pensé aux Juifs pendant le Troisième Reich. Rien de ceci n'est nouveau pour moi ou pour les autres informés. Le rapport de Iron Mountain, New York, écrit dans les années 60, décrivait le besoin de coller une image démoniaque au visage des extraterrestres pour avoir ainsi un nouvel ennemi. Un ennemi hors planète qui pourrait unir les êtres humains dans la peur et la guerre et s'avérerait devenir la clé de contrôle ultime pour le complexe militaire-industriel qui dépense des milliards de dollars et dont le président républicain conservateur et général à 5 étoiles Eisenhower nous a prévenu de nous méfier en 1961. Personne n'écoutait à ce moment-là non plus. Le scénario de l'après 11 septembre, c'est celui qui sera joué, à moins que suffisamment de gens ne soient informés, ce qui ferait échouer le plan parce qu'il serait incapable de duper un nombre suffisant de citoyens et de leaders. Après une période de terrorisme, une période au cours de laquelle nous serons menacés de voir des engins nucléaires détonner chez nous, et qui sait que cela n'arrivera pas vraiment, justifiant ainsi l'armement de l'espace aérien, une campagne sera lancée pour présenter au public de l'information relative à une menace venant de l'espace. Pas seulement des astéroïdes qui frappent la Terre, mais d'autres menaces. Une menace venant d'êtres extraterrestres. Depuis les 40 dernières années, l'ufologie, qui utilise le phénomène OVNI, combiné à une machine médiatique puissante, a créé une image de plus en plus démoniaque des extraterrestres via des films effrayants comme Independence Day et de la supposée science qui présente, dans certains cercles, les kidnappings et les abus par des extraterrestres comme étant un fait de la vie moderne. Que quelques êtres humains aient eu des contacts avec des ITI, je n'en doute pas. Que le vrai contact avec des extraterrestres ait été englouti sous un océan de témoignages inventés de toutes pièces, j'en suis certain. En fait, les vrais événements relatifs aux extraterrestres sont rarement révélés au public. La machine s'assure que les témoignages intrinsèquement xénophobes, apeurants et montés de toutes pièces soient ceux que des millions de citoyens lisent, entendent ou voient. Ce conditionnement mental pour créer la peur à l'endroit des ITI s'est vu subtilement renforcé depuis des décennies en préparation de futures tromperies. Des tromperies telles que le 11 septembre nous paraîtront des événements insignifiants par comparaison. J'écris ceci maintenant parce que j'ai été récemment contacté par plusieurs sources hautement placées du monde du renseignement et des médias qui m'ont clairement fait comprendre que des événements fabriqués et des explications toutes faites sont imminents. Ils visent à nourrir la peur concernant les ovnis et les extraterrestres et d'en augmenter le volume. Après tout, pour susciter un ennemi, vous devez faire en sorte que les gens détestent et craignent une personne, un groupe de gens ou dans ce cas, une catégorie entière d'êtres. En termes clairs, les programmes secrets maniaques relatifs aux ovnis, aux VRTE et aux technologies connexes, incluant ces technologies qui peuvent simuler des événements ITI, des enlèvements par les ITI et des choses comme ça, se préparent à s'emparer du projet Révélation, de le faire passer au feu de la peur et de simuler des événements qui finalement présenteront les extraterrestres comme un nouvel ennemi. ne vous laissez pas duper. Cette manipulation faisant déjà la matière de nombreux livres, vidéos, films, documentaires et le reste, tentera de décrédibiliser les faits, les évidences et les témoignages des informés de première main présentés par le projet Révélation. Et en dernier lieu, délivrera au monde la tromperie cosmique qui peint faussement les Hittites comme une menace venue de l'espace. Ne soyez pas dupes. En mêlant faits et fiction et en montant un canular d'événements OVNI qui peut paraître terrifiant, le plan est de créer finalement un nouvel ennemi durable extraplanétaire. Il faut être vigilant, parce que maintenant, vous savez qu'après 60 années, des milliards de dollars et les meilleurs esprits scientifiques du monde pressés à l'action, un groupe dissimulé, nourrissant de sombres desseins, à la fois un gouvernement dans le gouvernement mais complètement à l'extérieur du gouvernement tel que nous le connaissons, a maîtrisé les technologies, l'art de la tromperie et la capacité de lancer une attaque sur Terre, et de la faire passer pour une attaque venant des extraterrestres. En 1997, j'ai amené un homme à Washington pour le présenter devant des membres du Congrès et d'autres personnes haut placées pour les mettre au courant de ce plan. Notre équipe entière rencontra cet homme à l'époque. Il avait été présent lors de réunions d'organisation autour de la construction des VRTE par Lockheed, Northrop et compagnie. Ces véhicules furent ensuite répartis dans des emplacements dissimulés autour du monde. Ils allaient être utilisés pour simuler une attaque sur certains points stratégiques, faisant croire abusivement aux leaders comme aux citoyens à une attaque venant de l'espace. Avant qu'ils ne puissent témoigner, ces contrôleurs l'emmenèrent vers un emplacement secret en Virginie jusqu'à ce que le temps alloué au briefing soit écoulé. Cela vous est-il familier ? Werner von Braun nous a prévenu d'un tel montage comme prétexte pour porter la guerre dans l'espace, et beaucoup d'autres nous ont donné des avertissements similaires. L'armement spatial est déjà en place, cela fait partie d'un programme spatial parallèle secret en opération depuis les années 60. Les VRTE sont construits et prêts à décoller. Voir le livre Disclosure et le chapitre qui présente le témoignage de Mark McCandlish et autres. Les technologies permettant la tromperie à partir d'hologrammes sont en place. Elles ont été testées et elles sont prêtes à fonctionner. Et les grands médias sont des pions qui reçoivent maintenant leurs ordres de la main droite du roi. Je sais que tout cela ressemble à de la science-fiction, absurde, impossible, exactement ce qu'on aurait dit d'un scénario du 11 septembre, imaginé avant le 11 septembre. Mais l'impensable s'est passé, et il peut encore se passer, à moins que nous ne soyons vigilants. Combiner tout ceci avec l'ambiance actuelle de peur et de manipulation, et il y a un véritable risque de suspendre notre jugement collectif et notre constitution. Mais sachez ceci, s'il y avait une menace venant de l'espace, nous l'aurions su dès que les êtres humains ont commencé à faire exploser des armes nucléaires et à explorer l'espace aérien en vaisseaux pilotés par des êtres humains. Que nous respirions encore l'air libre de la Terre, malgré les actions stupides et imprudentes d'un groupe illégal, secret et hors de contrôle, témoigne suffisamment de la retenue et des intentions paisibles de ces visiteurs. La menace est complètement humaine, et c'est nous qui devons prendre en charge cette menace, la freiner et transformer la situation actuelle de guerre de destruction et de manipulation secrète en une situation de vraie révélation.
Tous, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2, il est 14h passé d'une minute, revue de presse, revue d'actualité. Alexandre avec vous jusqu'à 16h, à laquelle vous retrouverez l'émission Justice, présentée par Gilbert Crussol et Maître Méry.